Gameblogueuse, Gameblogueur, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction.
Bonjour.
Bonjour.
Salut, ça va?
Ça va Romain, ça va Julien, ça va Julo?
Ouais,
ça
va.
Messieurs,
quel numéro
vous avez créé,
mademoiselle?
Quand vous avez créé Joypad Gameblog,
oui,
le 20 février 2007.
Tout à fait.
Vous aviez un plan en tête?
Ah bah complètement.
Qui devait arriver à aujourd'hui.
Et tout marche comme prévu.
Exactement, tout marche comme prévu parce que nous sommes au podcast numéro
360.
Et nous allons parler de
la Xbox 360.
Exactement,
pour ses 10 ans.
Exactement, la Xbox 360 sortie le 22 novembre 2005 aux États-Unis et le 2 décembre en Europe. Et ben voilà, elle a 10 ans et on va faire un petit tour.
C'est plus dur à faire pour les autres consoles quand même.
Pour
La PS4, ouais. Podcast 4, il est passé depuis un peu de temps.
Ah, c'est vrai ça.
Là, je sais pas s'ils appellent la Wii 2 ou la Wii 3.
Le podcast 64.
Le podcast
64, ouais, mais c'est passé aussi. Donc,
Peut-être que ça tombera bien pour le podcast 444, un truc comme ça.
On avait tout prévu pour la 720, mais malheureusement, Microsoft nous a fait faux bon là.
Le podcast Jaguar, le podcast 3DO, non, on peut pas faire ces choses là, non, c'est impossible. En tout cas, on va parler pendant quelques
360 minutes.
Bien sûr.
Pendant quelques minutes. Et bien de cette console. D'ailleurs, on a fait un petit dossier pour récapituler un petit peu toutes les raisons pour lesquelles on l'a considérée comme culte. Et je pense qu'elle mérite ce statut, même si on n'est pas encore à 20 ans ou 30 ans plus tard. Déjà aujourd'hui, on sait ce qu'elle a fait de bien. On va en discuter, mais on va aussi parler des choses qu'elle a fait pas super bien. Et il y en a un paquet malgré tout. On va...
C'est pour être culte, je crois qu'il faut pas être parfait. Hein. C'est...
Tu penses ?
Les grands héros de l'Iliade et l'Odyssée, etc., avaient leurs failles. Tu sais, il faut toujours un rise and fall.
Je sais pas, moi je pense à Diana Rigg, tu vois. Je me dis, ouais, bon, je vois pas de défaut, pourtant
Rocky,
c'est une femme culte.
Rocky. Ah, il a pas une carrière parfaite, une trajectoire complètement lisse.
Oui, mais enfin, il gagne à la fin du 2.
Bien
à
sûr.
À la fin du 2, voilà.
Mais il y a des moments où c'est plus compliqué.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je t'accorde.
Rise and Fall.
Je t'accorde ce point. On va revenir déjà sur le lancement de la machine. Faire un petit point aussi sur les ventes, parce qu'aujourd'hui, la Xbox 360, c'est 84,58 millions d'exemplaires écoulés en 10 ans, ce qui est quand même un beau petit chiffre si on compare.
Je pense que si on nous avait donné ce chiffre avant la sortie de la console, on n'y aurait jamais cru, parce que Xbox était vraiment l'outsider, mais de très loin, derrière PlayStation, qui était une espèce de mastodonte indétrônable, etc. Donc voir la carrière que la 360 déjà...
PlayStation qui arrivait un an plus tard.
A posteriori, comme ça, on n'aurait jamais imaginé un tel succès.
Et puis plus de 80 millions de ventes mondiales pour une machine, c'est dans l'histoire
beaucoup,
de toutes les consoles, parmi les consoles les plus vendues de l'histoire. La Dreamcast, malheureusement...
20 millions et quelques.
Ah non, c'est plutôt 10.
13 millions.
Ah, c'est dans les 10 millions.
Ah, entre 10 et 15.
La GameCube, c'est plutôt vers les 20 millions.
20 millions,
Y a la Super Nintendo, c'est ça qu'on ne se rend pas compte, parce que Super Nintendo, console culte, etc., on a adoré.
80,
machin. Non, c'est dans les 65 millions de ventes.
Mais pour l'époque, c'était énorme par rapport au nombre de joueurs.
Bien sûr, voilà, le marché n'était pas le même, mais quand même.
Pas
aussi grand public.
C'est ça qui est amusant, c'est que quand tu regardes historiquement les différentes générations de consoles, il y a toujours un classement qui est très net. Là, si tu te bases juste sur la précédente génération de consoles, il n'y a pas eu de perdants, de gros perdants.
Il y a eu
personne
gagnant.
Qui sert... Oui, mais pas
oui.
Tant que ça finalement.
Là, oui, gagne
mais
avec 102 millions d'exemplaires.
Bah ouais, mais c'est
rien.
Pas un gros gagnant parce
l'écart,
que l'écart
il
est pas
20 millions, c'est l'écart qui est aujourd'hui entre les Xbox One.
C'est moins
One
de 20
et...
millions. C'est moins de 20 millions par rapport. Enfin, c'est c'est quasiment, mais.
Quasiment 20 millions.
C'est pas si énorme que ça. Disons qu'elle a connu un démarrage stratosphérique. Elle a tout tué. D'ailleurs, elle est en avance sur la PS4, qui pour l'instant est le deuxième meilleur démarrage de tous les temps, le meilleur démarrage d'une PlayStation. Mais la Wii a 5 mois d'avance sur le record, entre guillemets, peut-être, de la PS4. Donc ça dit à quel point son démarrage a été stellaire. Par contre, quand elle s'est arrêtée. Net et elle a plus bougé quoi.
Et quand tu finis avec 85 millions de consoles vendues, t'as pas de quoi mettre ta tête basse,
non.
T'as pas de
mais
quoi,
surtout,
t'as pas de quoi
dit,
prise,
surtout
quoi.
Compte
surtout,
tenu de
surtout
la
les...
précédente machine,
bah ouais,
quoi.
C'est les
parts de marché,
c'est les dynamiques qui comptent. Ouais. C'est comme un bon élève qui a toujours 18 et qui passe à 12, c'est un peu une défaite pour lui, alors que le mauvais élève qui a 3 de moyenne tout le temps et qui passe à 11 peut-être, finalement il a une note inférieure, mais enfin lui il a vraiment progressé. Et là quand même, elle a fait en gros 4 fois les ventes de sa précédente machine. Et c'est que la deuxième machine de Microsoft.
Et réfléchis deux secondes en part de marché. Donc elle a fait part égale avec la PlayStation 3 quoi. À l'époque, entre PS2 et Xbox, c'était un match, il n'y avait pas de match quoi.
7 fois moins de ventes entre la Xbox et la PS3. Et là, c'est match nul.
Match
quasiment.
Nul, ouais.
Ouais, quasiment match nul. La PS3 qui est arrivée un
incroyable.
An plus tard, qui elle culmine à plus de 85 millions d'exemplaires, qui l'a battue donc.
Ouais, enfin,
mais ça n'a pas été
vraiment
pas
sur
facile,
la
elle a été derrière
tout du long.
C'était un peu fort à la mot. Et voilà, donc c'était un beau score donc, pour cette Xbox 360, qui avait été vendue, rappelez-vous, quand elle est arrivée, avec deux versions. D'abord la version basique à 299 euros, une belle version pour entrer, on va dire, dans le monde Xbox 360.
Ouais, même si franchement, fallait quand
mais
même.
Mais sans
pas
disque dur, c'était,
ouais,
un peu, c'était un peu chiant.
C'est un peu con, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc d'appel, mais bon.
Tu finissais par te retrouver coincé. Ouais. Les gens qui ont acheté ce modèle-là, oui, pour la première année, on va dire, les deux premières années.
Sans casque,
ça va.
Sans casque micro, après, avec une manette, avec fil.
Après, tu te retrouvais forcément coincé. Si je me souviens bien, j'étais à 4, par exemple. Bah, sans disque dur, tu pouvais tout simplement pas y jouer. Et c'était embêtant très, très vite. Et même finalement, le modèle premium
399.
C'était que 20 gigaoctets. Ouais. Et donc, quand tu retires le système d'exploitation qui, lui, déjà prend de la place, tu te retrouvais coincé assez vite également.
C'est simple, hein, t'avais 13 en fait. Ouais. Si je me souviens bien, c'est 13.
Et le modèle basique n'avait pas de prise HDMI, si je ne m'abuse à l'arrière.
Mais le modèle premium non plus.
Non plus, ah bon, il a fallu attendre du temps. Moi, ma Xbox, ma bonne petite 360, etc., j'avais pas de HDMI.
La mienne non plus, j'étais en component jusqu'à la fin.
Ils arrivaient à émuler un 1080p qui était un faux 1080p par le biais donc, de cette sortie multiple.
Composante, ouais.
En composante, tu pouvais faire du 1080p, mais c'était du.
Il n'y a pas eu de jeu en 1080p, hein, si ce n'est pas.
Non, je te parle du format qui
sortait. Mais évidemment, la résolution des jeux, c'était plutôt
la résolution native des jeux, il y en a très peu qui étaient
en 1080p. Dans le contexte aussi, en 2005, tout le monde n'avait pas de télé à écran plat. On parlait à l'époque de HD Ready pour avoir un petit écran en 720p, puis le Full HD est arrivé ensuite en 1080. Mais au départ, on avait nos écrans cathodiques et on se rendait compte d'ailleurs sur la plupart des jeux qui nous étaient proposés au début que le texte en bas, quand il y avait du texte, sur les écrans à tube cathodique, c'était juste illisible.
Mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure sur ce qui a fait le succès, en tout cas la saveur un peu indescriptible de la Xbox 360. Elle est arrivée avant les autres, c'est elle qui a ouvert le bal.
Avec un beau petit line-up d'ailleurs.
Et franchement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais moi c'est elle qui m'a fait découvrir la HD. Et je m'en rappelle, comme à une époque de la Super Nintendo ou autre, on mettait plein de jeux juste pour les voir, genre les intros parce que c'était beau. Là, le nombre de jeux dont j'avais rien à faire, je les mettais juste parce que je voulais les voir en HD et ça claquait, quoi.
Mais parce qu'au moment où on a acheté, enfin, la tous à peu près au lancement, je pense. Moi, par exemple, à ce moment-là, j'avais pas encore ma télé.
C'était pas facile de l'avoir au lancement.
J'avais pas encore ma télé HD. J'avais ma télé cathodique Sony, super cool et tout ça, pour l'époque. Et donc, effectivement, j'ai fait exactement ça. C'est-à-dire que dès que j'ai eu ma télé, j'ai remis tous mes jeux, Gears of War, machin, etc. Et là, je faisais, waouh, putain, c'est net.
Moi, ma Xbox, j'ai commencé. La première télé sur laquelle j'ai joué, c'était sur un tout petit combi VHS cathodique, grand comme ça. Et au début, tu sais, quand tu sais pas. Et on a pu entendre ça pour plein de technologies au fil du temps, ça sert à rien. Moi au tout début je me disais, bon, là HD ça ajoute pas à grand chose. Et après, la première fois que j'ai pu brancher ma Xbox 360 sur un écran HD, je fais, ah ok, j'ai compris. Et effectivement,
en fait, c'est trop bien.
Effectivement, ça change beaucoup de choses et c'est vraiment génial. Donc moi, comme Julien, j'ai découvert la HD avec la 360.
Vous l'avez tous su au lancement? Parce qu'il y avait quelques soucis au lancement.
Pas au lancement, mais moi je l'ai acheté rapidement.
Il y avait des ruptures de stock.
Il y a eu des ruptures de stock au tout début. Je me rappelle que je l'ai pas eu tout de suite.
Moi, je l'ai eu en mai 2006, donc quelques mois après. Et je me souviens que le 2 décembre, j'allais en cours et je suis passé devant, je crois, un Virgin Megastore qui n'existe plus et il y avait un peu de queue. Et j'étais là.
Mais c'est celui des grands boulevards.
Non, pas sur les grands boulevards.
Si.
Non, plus, enfin, pas très loin, mais plus bas. Un tout petit Virgin. Et j'étais là. La queue pour la Xbox 360, parce que je me souvenais tellement des commentaires des gens en France, je parle, sur la première Xbox où ils écrivaient Microsoft avec le signe des dollars, c'est une console de ricains qui nous intéresse pas ici, nous on aime que les jeux japonais, et voir des gens
et toi qui es américain, ça te saoulait, quoi, d'entendre des choses comme ça?
Non, moi j'aime pas l'injustice.
Il est américain.
Bah bien sûr.
Moi j'aime pas l'injustice, et quand j'entends les gens s'acharner comme ça pour rien, ça m'énerve. Et quand j'ai vu les gens faire la queue,
qui se change très rapidement.
Non, mais j'ai vu la queue pour la Xbox 360, ça m'a étonné. J'ai été étonné. L'accueil n'a pas été aussi froid pour elle pour la première Xbox.
Elle était avant-gardiste.
Effectivement, elle est sortie un an avant. Donc pour nous qui ont passionné de jeux vidéo depuis des années.
Puis il y avait des problèmes.
Moi, sans déconner, la PS3 et la Xbox 360 seraient sorties en même temps. Je crois que j'aurais évidemment choisi par sécurité d'acheter la PS3.
599 pour la PS3.
Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait.
Prix et jeu,
le prix
était pas terrible.
Sans rentrer dans ces considérations-là, ce que je veux dire, c'est que si j'avais eu les deux l'une en face de l'autre, j'aurais choisi la PS3. Le fait qu'elle soit un an avant, et moi j'avais envie de jouer aux jeux de nouvelle génération, j'ai dit, ouais, tant pis, je m'achète une Xbox 360 direct.
Et puis là, on parlait des jeux HD, mais il faut quand même se resituer à l'époque. Même les contenus tout court en HD, il y en avait très 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 peu. À la télé, il y avait quasiment rien en HD. Il y avait quelques chaînes sur le câble ou sur le satellite.
Oui, quelques transmissions de foot.
Mais en vrai, pendant plus d'un an, moi je me rappelle, les seules fois où j'avais acheté du coup ma télé full HD, bah, le seul moyen de bénéficier d'images
de
HD, c'était ma Xbox 360. Et d'ailleurs, même quand je regardais la télé, c'était dégueulasse parce que quand tu balances du flux SD sur une télé full HD, bah, ça bave, c'est pas terrible.
Bah, nos décodeurs numéricables Orange et autres de l'époque, on était encore sur les trucs en périphérique.
Mais quand tu penses, 2005, c'est vraiment une autre époque. Il y avait encore des chaînes qui retransmettaient en 4 tiers.
Bien sûr, ouais, bah, la plupart.
La plupart. Donc, c'est quand on se replace dans le contexte, c'est vrai que la Xbox, elle te donne la 360, elle te donne accès à un truc que tu n'as pas ailleurs.
Et le côté avant-gardiste, c'est justement aussi qu'à l'époque, les télés HD, Full HD étaient là, mais elles coûtaient très cher encore. Mmh. Et les éminents spécialistes du high-tech, de la hi-fi, etc., nous disaient non, mais attendez, vous allez voir, les prix vont baisser et bientôt tout le monde aura une télé HD. Donc ils sont pas si en avance que
ça. Ils ont eu totalement raison.
Mais dans la mentalité collective, c'était difficile d'imaginer qu'effectivement, un an et demi, allez, 2 ans maximum après, la majorité des gens auraient des écrans plats en
HD.
Parce que
ça, c'était une révolution. Ça portait, contrairement à la 3D relief, là, qui est vraiment un gadget. Ouais. Ça, c'était un marqueur technologique quoi, où tu vois tout de suite la différence.
Voilà, c'est ça, c'est que c'est sensible, surtout tu le vois et ça saute.
C'est comme la VHS et le DVD. Là, il y avait une énorme différence. Les langues, la qualité d'image, les bonus, etc. Entre le DVD et le Blu-ray, c'est plus un truc de spécialiste. On la voit la différence, mais elle te saute pas, elle te donne pas envie de refaire.
C'est pas une révolution.
Voilà.
Donc, dans les choses qu'on peut retenir, évidemment, de la Xbox 360, on peut commencer déjà par les jeux.
Exic HD qui était
Exic HD
oui,
qui était offert.
Installé automatiquement sur le modèle premium, ouais. Un petit jeu de puzzle avec des combinaisons de couleurs à faire, extrêmement addictif. Le truc, et le pire, c'est que quand j'ai eu la console, moi j'ai eu la console avec Condemned, je me suis pas forcément arrêté sur ce petit jeu, et j'y ai joué plusieurs semaines après, parce que j'ai vu dans mon disque dur, il était là, et le truc, il était addictif à donf, et je comprends pas pourquoi il y en a pas eu plus dans cette série là, parce que le gameplay, c'était simple, un jeu de puzzle, mais ça marchait très bien.
Bah, on reparlera des petits jeux comme ça, comme notamment sur le Xbox Live dans Uno, par exemple.
Le Xbox Live Arcade, déjà en soi, c'est l'une des grandes réussites de la Xbox.
On en parle juste après les jeux, parce qu'au lancement, rappelez-vous, il y avait des jeux comme Amped 3, Call of Duty 2,
qui était super beau.
Condemned, dont tu as parlé, Romain, qui était un super jeu.
Il y avait Ghost Recon
Advanced
Warfighter, qui était incroyable.
King Kong
de Peter Jackson,
qui était du coup un remaster avant l'heure.
Ça dépend sur quelle plateforme il était développé en tête, mais en tout cas sur Xbox, il était très beau. Et tu sentais vraiment l'écart avec le.
Il était plus beau
avec la PS2.
Ouais, même le fameux Hitman Blood Money aussi, c'était Blood Money à l'époque.
Il a été surfait sur les deux, sur plusieurs machines différentes, ouais. Et sur Xbox.
Et sur
360.
Xbox, il était beaucoup plus beau. Ouais,
Dead or Alive 4,
Cameo, Perfect Dark. On reviendra sur.
Est-ce que Project Gotham Racing 3, il était de lancement? Très très beau aussi.
Il était pas au lancement?
Bah juste après alors.
PGR 3 si.
Ah, d'accord.
Cameo, ouais. Par exemple, bon, le jeu est peut-être pas d'une profondeur
mais
sidérale,
les promesses étaient incroyables.
Mais ouais, et puis et
c'était
puis,
beau.
Non, la qualité cool. Des textures, etc., les transformations, les jeux de lumière, enfin vraiment, c'était
jamais
vraiment
vu,
en avance par rapport à ce qui se faisait. Et moi, je trouve que c'est. J'y reviendrai tout à l'heure, moi, pourquoi l'une des raisons aussi qui fait que j'ai de l'amitié vraiment pour cette machine, c'est qu'elle me rappelle un peu la Dreamcast.
Mm-hmm. Totalement.
Et la Dreamcast, elle était un peu en avance, et du coup, on a vu plein de trucs où on faisait waouh, c'est un peu plus beau et tout, mais c'est cool. Et la 360, j'avais la même sensation, c'était waouh, putain, c'est un peu plus beau et c'est cool.
Mais le côté entre deux, le côté entre deux est intéressant parce que justement, la PS3 sortie un an plus tard a beaucoup de choses en moins du passé en fait. Par exemple, cette console, elle est sortie avec 2 ports carte mémoire et des cartes mémoire. Alors évidemment, ça servait pour ceux qui prenaient la console sans le disque dur, pour sauvegarder tes parties tout simplement. Elle n'est pas Wi-Fi, elle n'avait pas de HDMI comme on l'a dit.
Exact.
Il y a vraiment un côté entre deux, et elle a encore des marqueurs de la génération précédente, ce que n'a pas la PS3 après, qui était une espèce d'ovni quoi, parce qu'elle s'était débarrassée des cartes mémoire, etc. Et puis tu avais même dans la première version, tu sais, ce petit flapper,
avec 3 ou 4 différents types de
cartes mémoire, etc. Donc elle a un vrai marqueur d'entre deux générations, je trouve.
Sans parler du fait
lui donne un petit charme.
Ce sera peut-être le cas de la NX du coup.
Qu'elle lit, sans parler du fait qu'elle lisait les DVD, qui n'était pas trop carénée pour l'avenir, puisque.
Mais non, pas du tout.
Parce que le HD DVD, qui aurait dû être un format qui.
Alors
pu s'imposer,
je pense
était vendu à part. Ouais, ça n'a pas fonctionné du tout.
Longtemps après, mais je pense que c'était un choix judicieux de la part de Microsoft. Mm-hmm. Parce que sortir la Xbox 360 avec un lecteur Blu-ray d'emblée, déjà techniquement, je ne sais même pas si c'est possible. En 2005, ça existait déjà le Blu-ray.
À l'époque, ils s'expliquaient de leur choix. Ouais.
Parce que...
Et à la fois, c'était quand même Sony. Donc c'était foutre. Enfin, donner des sous à Sony.
Ils l'ont bien fait avec la Xbox One. Hein,
oui, mais plus tard.
Parce que ça aurait augmenté les coûts de vente de manière assez importante. Et là, l'intérêt, c'était, sachant qu'ils étaient outsider, de sortir en avance pour essayer de grappiller un peu en attendant la PS3, parce que s'ils avaient attendu un peu plus et s'ils étaient sortis en même temps que la PS3, je pense pas que les chiffres de vente seraient tels
et
qu'on
les
connaît.
Et puis sur le choix du HD-DVD, à la décharge de Microsoft, hein, à l'époque, on savait vraiment pas lequel des deux formats allait gagner.
C'est vrai.
Bien sûr.
Non, mais c'est même pas une question de qualité.
C'est facile de le dire aujourd'hui. À l'époque, dans tous les magazines, moi j'étais un lecteur des années laser, etc., ils disaient, les gars, attendez. Parce que honnêtement, il y a deux consortiums et ils ont tous les deux un pouvoir de qu'on appelle ça de
persuasion,
de lobby. Il y avait des très grands groupes des deux côtés.
Bah, je me souviens
qui exerçaient un gros lobbying et personne n'était capable de te le dire. En tout cas, au moment où la console a été conçue et où elle est sortie, on ne savait absolument pas.
Mais quand même assez rapidement, moi je me rappelle, parce qu'à l'époque je faisais une émission high tech.
Bah, il a fallu attendre
Bertrand Amar.
Il a fallu attendre plusieurs mois avant que.
Et on allait à l'IFA, à Berlin, les trucs high tech et machin. Quand tu regardais les specs du Blu-ray et les specs du HD-DVD quand même, tu te disais, bon, si tu veux aller dans l'avenir quand même, celui qui a les vrais specs, c'est le Blu-ray et pas le HD-DVD, qui était déjà un peu en retrait. Et quand tu regardais le consortium, tu voyais vraiment les grosses marques de l'industrie du cinéma.
Bah, Universal était
quand même pour ton information,
Universal était
sur tous les formats précédents,
je pense que c'est les seuls.
Pour ton information, sur tous les formats précédents, ce n'est pas la qualité qui a gagné, justement. La VHS était bien moins performante que
le V2000 ou le Betamax. Le cinéma était plus avec Blu-ray, quoi.
Hein,
les gros studios cinéma étaient plus avec
Blu-ray parce que Sony
et l'industrie du cul était avec aussi plus le Blu-ray, et ça généralement
c'est
un indicateur.
Dans tous les cas, elle est sortie avec même pas ni un Blu-ray ni un HD-DVD, mais avec un DVD. Et la promesse plus tard d'avoir un lecteur
ça lui a joué des tours, mais bien plus tard, quoi.
Ça faisait un super lecteur DVD d'ailleurs, au passage. Moi, ma première, elle était dézonée. Je pouvais lire les DVD US. Ouais, c'est un truc de fou. C'était Angèle qui m'avait dit ça. D'ailleurs, elle m'avait dit, tiens, mais un DVD US, tu verras, ça marche. Et c'est vrai, ça marche.
Ça a été corrigé. Enfin, corrigé.
Ben, je crois, parce que sur ma Slim, en tout cas, ça marche pas. Donc voilà. On va revenir donc maintenant sur les jeux, messieurs. Les jeux qui vous ont marqué. Les jeux qui, pour vous, ont marqué même le jeu vidéo de manière générale. Je pense qu'il y en a un qui est assez indispensable. Je pense que Romain, tu peux nous en parler.
Juste avant, parce que je sais de quoi tu vas parler. Il y a une petite, un petit entre-deux, on va dire, avant celui dont on va parler. Dead Rising.
Ouais.
Je me souviens que Dead Rising, ça mettait un petit coup parce qu'il y avait tellement de personnages affichés en même temps à l'écran.
Non, mais Dead Rising, c'était une des plus belles exclus qu'ils aient jamais eu au début de la console.
Mais surtout, c'est premier été de la Xbox 360, t'as Dead Rising qui sort avec cet univers un peu kitschouille mais rigolo, et surtout tant de zombies à l'écran en même temps.
Et n'oublions pas que c'était un symbole de la nouvelle conquête de Microsoft sur les jeux japonais, le marché japonais. Pas forcément pour s'imposer aussi au Japon, voilà, mais pour montrer aux joueurs du monde entier qui jouaient aux jeux japonais jusque-là, qu'ils pouvaient aussi avoir des jeux typiquement japonais qui sortaient sur Xbox.
Et quel bel exemple avec Dead Rising, vraiment, super jeu.
Et
hein.
Dans la foulée, ou je sais plus si c'était un peu avant ou un peu après, il y avait Lost Planet, et je me rappelle plus tard est sorti sur PS4 Extermination, qui est vraiment une sorte de Lost Planet, hein, c'est pareil, bah, c'était tout naze, alors que Lost Planet, le premier
est très bien,
était vraiment pas mal, et puis c'était super beau, enfin il y avait des effets de neige incroyables, puis là on le voit sur les images là, sur Dead Rising, mais le nombre de zombies, c'est du jamais vu, puis je sais pas, il y avait une finesse dans l'image, etc. Enfin,
puis c'était marrant,
puis c'était un jeu drôle, c'était next gen, quoi.
C'était très drôle parce que t'avais plein d'armes, évidemment. Là tu vois, si vous êtes premium, vous pouvez voir qu'il y avait une tronçonneuse, qu'il y avait des caddies, il y avait des trucs,
masques de
un parasol, il y avait un katana que tu trouvais dès le début juste à côté.
Mais
là, sur,
il n'était pas évident par contre,
il était très bien, mais il y avait un système de sauvegarde et de progression qui était très bizarre, qui faisait un peu limite roguelike, hein, dans son style.
En tout cas, dès le day one, on a eu
des boss absolument géniaux aussi.
Dès le day one et les premiers mois donc de la Xbox 360, on a eu une satisfaction next-gen à chaque fois qu'on jouait un
sauf sur FIFA 06. Ça, je vous cache pas que FIFA, c'était un peu vraiment de la merde.
Parce que si je me souviens bien, plus ou moins, ou à quelques semaines d'écart, il y a aussi le premier Saints Row qui sort sur 360. Et là,
à l'époque, ils étaient encore au premier degré.
un des rares coups intelligents de THQ, c'est de sortir Saints Row alors qu'il y a aucune concurrence dans le domaine à ce moment-là. Là, tu es sur la console next-gen, comme on l'appelait à l'époque, et tu as ton GTA-like qui est déjà là, tu vois. Et là, c'était, le, c'était un bon coup. De la... D'ailleurs, le premier Saints Row a très bien marché en termes de vente. Bah, après, heureusement, aussi, hein. ils ont pas resté dans la même direction pour les suites, et ils se sont rendus compte que faire du GTA-like sérieusement, c'était pas du tout la, la chose à faire. Donc, ensuite, ils sont partis dans un autre délire. Et après, grand bien
sont,
leur en a pris.
On peut même dire, ils sont partis en couille, hein, tellement c'est devenu n'importe quoi.
Mais en n'importe quoi en bien.
Ouais.
Et le truc, c'est que, comme disait Julot, dès le début et de manière régulière, on avait des bons jeux. Et automne 2006, là, la première grosse claque de la 360 et de cette génération de consoles-là en même temps. Mais bon, si
ah
tu
oui,
as
oui,
eu un lancement plus mauvais.
C'est un marqueur.
Tu veux qu'on fasse un lancement ? Non, c'est comme tu veux. Si
j'arrive
quelque
pas,
chose
j'arrive pas à l'imiter, moi. J'arrive pas à imiter Marcus Fenix en fait.
J'essaye.
Ah putain, non, j'arrive pas. Bon, bref. Gears of War.
Gears on va lui péter les veines du cul à
ça,
la reine.
C'était Cole ça qui disait ça.
Ah bon ?
Ouais. On va t'arracher les veines du derche.
C'est ça ?
C'est
quelle classe ?
Ouais, c'est dans le 2. Donc, Gears of War, Romain. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ?
Gears of War,
le jeu le plus marquant de la catégorie TPS depuis toujours en fait.
Incroyable à tellement de niveaux différents. Moi, je le répète souvent, mais c'est assez rigolo, c'est qu'au moment où j'ai découvert Gears of War pour la première fois, ce genre de jeu ne m'intéressait pas du tout. Les jeux de tir et tout, les jeux guerriers, c'était pas mon truc. Et j'étais à la soirée de lancement de Gears et il y avait
sur les Champs-Élysées,
il y avait des bornes et j'ai pris la manette en main et là, immédiatement, aussi bien visuellement qu'en termes de gameplay. Le jeu il se prend en main super vite et c'est très beau à l'époque. Hein, enfin,
mais non, mais c'est pas que c'est très beau, c'est le plus beau jeu qui existe.
Défoncer la gueule,
c'est
dingo.
Non, mais moi, ouais.
Et manette en main, le gameplay TPS d'ailleurs, Gears of War a été tellement copié dans
ah bah, tout bah, c'est le papa de tous les TPS du jour, hein,
et sûr, pas vraiment égalé.
Système de cover inventé par Gears of War. Je parle pas du système de cover en général, mais de ce système de cover qui est répliqué dans absolument tous les jeux aujourd'hui.
Moi je m'en rappelle, j'étais à la conférence Microsoft à l'E3, la toute première fois ils ont montré Gears, la salle, tu sais, il y a des moments où tu sais que tu vis quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, on l'a pas du tout revécu là cette année avec Romain lors de la présentation de Gears 4.
Non,
mais là, tu sentais que le souffle était coupé, et les gens ils étaient comme ça, ils regardaient l'écran et ils faisaient putain, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que techniquement, c'était du jamais vu. Le style, etc., badass, machin et tout, était assez rare aussi. Et puis esthétiquement, enfin, ces espèces de ce monde apocalyptique, très gris, torsadé, un peu, enfin, qui a vraiment une identité, quoi. Tu te reconnais tout de suite Gears. Et puis ce côté-là, le cover justement, cette caméra épaule, là, bam, bam, bam.
Alors il y a le sprint,
tremble et tout. Bam,
le sprint, c'est repris aussi.
C'est un tout petit truc finalement dans l'ensemble du jeu.
Faire bouger la caméra.
Cet effet genre caméscope que tu as quand tu te mets à sprinter, ça aidait vachement l'immersion.
Mais ça aussi, ça a été repris. À fond, ça, hein.
Est-ce que le système de rechargement a été pris aussi parce qu'il est très malin?
Ouais, avec le timing, ouais. Et tu peux recharger plus ou moins vite en fonction de ton timing. Non, c'est Gears of War, c'est excellent.
Et puis il avait une identité très forte, quoi.
Les armes, t'as le lanceur avec la tronçonneuse qui est intégré, t'as le rayon de l'aube,
ultra gore.
Ouais, les ennemis, tout. Enfin, Gears of War, c'est génial,
tout simplement, quoi.
Et la coop en local.
Oui, c'est un gros jeu en ligne aussi, hein, d'ailleurs, au passage.
Bah oui, parce que mine de rien, c'est les débuts massifs du jeu en ligne à l'époque. Et Gears of War, ça a été une sortie incroyable pour ça.
Disons
ça a été énormément
joué en ligne. Massif et stable, peut-être.
Exactement.
La PS2 le faisait déjà, la Xbox.
Oh, ouais,
la Xbox le faisait pas trop mal non plus.
La Xbox la faisait pas mal. La Dreamcast l'a fait aussi.
La Dreamcast le
faisait.
Mais
là, c'était sur des gros jeux.
Pour moi, les débuts du jeu en ligne, tel qu'on conçoit aujourd'hui, tel qu'il est joué aujourd'hui, c'est lui.
Du jeu en ligne grand public. Parce qu'avant, c'était quand même réservé à une tranche très hardcore des joueurs
très
bien équipés,
ou les PCistes, quoi,
ou les joueurs PC. Voilà, là je parlais plus sur console. Ouais, c'est Gears,
il a démocratisé
Xbox
totalement,
et c'est ouais,
il a tout fait. Même sa campagne de pub était géniale, hein. Rappelez-vous
avec Mad World
interprété par Gary Jules, qui est tout calme, et puis tout d'un coup il y a des images de guerre
c'était
parfait.
C'était une réussite à tous les niveaux, et en plus c'est Epic Games qui arrive et qui fait voilà notre moteur.
Vous pouvez l'utiliser si vous voulez.
Voilà ce que vous pouvez faire avec. Et on vous le loue si vous voulez. Et c'est vrai que Epic, c'est finalement, même si en termes de jeu, à part Gears, ils en ont fait quelques-uns. Oui, ils ont fait Unreal, mais
Unreal Tournament, c'est...
ils sont ils ont pas marqué la génération
ouais,
précédente.
C'était plus des moteurs avant des jeux, alors que là il y avait un vrai jeu. Quoi.
Là il y avait un jeu, mais aussi le moteur, il a été tellement réutilisé partout. Sur cette génération. Epic pendant la génération PS3 360, ils sont partout.
Ah ouais, ouais. Mais presque trop, parce que du coup il y avait vraiment, tu reconnaissais la patte du moteur avec le côté un peu plastique des personnages, etc. Ah enfin, il y avait une patte visuelle qui se reconnaissait. Quoi.
Les militaires bodybuildés de Gears of War, on les a vus. Hein. Ça s'est même ressenti sur des jeux comme Batman par exemple. C'est Batman dans Arkham Asylum, Arkham City, c'est une masse, et il y a la patte Epic Games, Unreal Engine.
Ouais, absolument.
Clairement.
Mais ça, c'était pour Gears of War. Il y a un autre jeu, Romain, dont tu vas peut-être nous parler plus spécifiquement que nous, parce que c'est un peu... Alors là, on parlait de celui qui a réinventé un peu le TPS. Il y a aussi celui qui a inventé le jeu en ligne vraiment, en fait. Mmh. C'est Halo 3.
Halo 3.
Qui a une campagne qui est très bien, mais en ligne, c'était carrément du délire.
Halo 3, c'est pareil, c'est incroyable. Moi, j'avais limite peur de jouer en ligne avant Halo 3. Mmh. Ça m'impressionnait parce que je me disais, je vais pas réussir, je vais me faire défoncer, etc. Et là, t'as Crackdown qui sort. Avec l'accès promis à la bêta multi de Halo 3.
Et là, c'était une première aussi, hein,
une pratique qui n'était pas habituelle. Et là, la révélation immédiate, quoi. C'est oui. Alors, je me suis fait défoncer pendant un nombre de parties assez conséquent, mais tu t'amuses. C'est marrant, la prise en main est bonne, c'est convivial, franchement c'est Halo 3, c'est dingo. Et après quand le jeu complet sort, la campagne géniale avec la possibilité de la faire à 4 en coop pareil. C'est des maps super super bien conçues, très variées, des armes marquantes, Halo 3 c'est une grosse réussite. Et curieusement, les gens, je me rappelle à l'époque, se moquaient un peu parce qu'ils disaient oui, il est pas très beau. C'est vrai que c'était pas le jeu le plus beau qu'on avait sur cette génération.
Sa facilité d'accès était
mais
incroyable.
Mais on s'en fout, quand tu joues à Halo 3, la réalisation graphique, mais t'en as tellement rien à carrer, tellement c'est agréable à prendre en main. Et là encore, c'est pareil, tu vois, Gears, je jouais pas au jeu de tir vraiment. Avant Halo 3, je jouais pas trop au FPS, j'avais joué beaucoup à Duke Nukem, GoldenEye, au FPS sur N64, mais sinon, c'était pas trop mon style de jeu. Alors, et sur Halo 3, tu prends ton pied immédiatement, c'est vraiment
excellent. Moi, j'ai préféré
Halo 4, excellent.
Mais...
Bah, y a eu Reach aussi qui a été... pas mal apprécié.
Bah, Reach, en termes de qualité, Reach est peut-être meilleur que Halo 3,
et
mais c'est une révélation pour moi. Halo 3, c'est une découverte. C'est grâce à ce jeu-là que je me suis mis vraiment à jouer en ligne, que je me suis mis à jouer au FPS, et c'est pour ça que moi je retiens surtout Halo 3. Et tu vois, même quand Halo Reach est sorti, quand Halo 4 est sorti, avec mon groupe de joueurs avec qui je jouais à Halo d'une manière générale, et bah, régulièrement on remettait Halo 3 pour accéder à certaines maps. Et c'est pour ça que la Master Chief Collection sur Xbox One est si plaisante, c'est que tu peux retourner jouer à Halo 3 quand tu veux, et sans crainte d'avoir personne sur les serveurs, quoi.
Ouais, et puis c'était, comme je disais, c'était en ligne, c'était quand même un matchmaking qui était quasiment infaillible.
Ouais.
Ça fait partie des trucs qu'on a apporté à la Xbox 360,
d'une rapidité.
Toute l'interface et du jeu en ligne, en fait.
Absolument.
La façon dont c'est conçu, dont ça fonctionne et tout. Là-dessus, la Xbox 360, elle a juste fait un boulot de dingue.
Qui s'est toujours améliorée. Tous les ans, il y avait des petites mises à jour. Hein, pour
ça, on en reparlera après, parce que ça c'est génial. Revenir dessus. Ouais. Ils étaient à des années-lumière des autres.
Ils étaient à des années-lumière de ce qu'ils font aujourd'hui aussi, d'ailleurs, au passage. Mais bref, Halo 3, jamais dans nos cœurs.
Ah oui, dans le mien en tout cas.
Bon,
ça, c'est sûr.
On va passer à quelque chose d'un peu moins grand public, mais qui nous tient à cœur, Julien et moi, à savoir un RPG. Alors, c'est pas Blue Dragon,
non.
Qui avait beaucoup d'espoir. On mettait beaucoup d'espoir en lui parce que c'était quand même Akira Toriyama, c'était Sakaguchi, etc. Et Nobuo Uematsu, encore une fois, aux musiques. Mais c'est plutôt
Lost Odyssey
qui nous a vraiment frappé, toi comme moi. Pour toi, t'en parles mieux parce que tu fais des envolées lyriques. Moi, je dirais juste oui, c'est beau, ça défonce, il y a un beau scénar. Toi, tu peux me dire des choses sur les poèmes, par exemple, qui sont à l'intérieur pendant des heures,
déjà,
au coin du feu avec un verre de vin à la main et un gros cigare en même temps.
Bien sûr.
Peignoir en velours.
Voilà, exactement, un petit peignoir en velours.
Je crois que t'as tout dit, voilà.
Voilà.
Non, mais c'est symptomatique de la différence, justement, de Microsoft sur la 360 et aujourd'hui. C'est vrai que d'avoir comme signature en exclusivité un RPG signé par Sakaguchi... à l'époque, qui était parti de Square, c'était quand même une sacrée claque, quoi. Et ça montrait un petit peu, ils l'ont fait avec pas mal de jeux, à quel point Microsoft à cette époque-là a investi sur le jeu vidéo japonais.
Ils ont vraiment essayé.
Ils ont vraiment essayé. Bon, ça c'est pas en termes de volume de vente,
franchement.
Ouais.
Ils ont tout mis sur le RPG japonais, parce que même Blue Dragon, finalement, bah oui. Si en termes de qualité, il est moins.
Il était enfantin, mais ouais, il était sympathique. Quoi.
Mais il évoque moins de bons souvenirs que Lost Odyssey. Mais malgré tout, tu peux pas leur enlever le fait d'avoir voulu le faire. Quoi.
C'était même
faire
pas un jeu, c'était deux. Quoi. C'est clair.
Bref, ils ont tout donné. Ça a pas super bien marché en vente, mais quelque part, on s'en fout un peu. Reste la qualité du jeu. Moi, c'est un jeu qui m'a. Honnêtement, c'est le dernier RPG japonais qui m'a à ce point touché. Donc, c'est l'histoire d'un immortel qui est là depuis plus de 1000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point, même dans le caractère design, être immortel, c'est une question qu'on a déjà posée sur Gameblog, etc. Bah, c'est pas si simple que ça, et c'est pas si heureux que ça, parce qu'il s'est marié, il a eu des enfants, et ses femmes et ses enfants qu'il a eus sont morts dans ses bras, etc. Et il a avec lui, il est accaparé par cette tristesse, cette mélancolie, et il y a cette mélancolie dans le jeu, globale, avec la musique de Nobuo Uematsu qui est somptueuse, avec son visuel qui est parfois un peu étonnant, il faut aimer le caractère design aussi.
C'était un coréen, c'est ça je sais plus si c'était un
designer.
Un grand dessinateur coréen qui nous a fait Kaim, donc là qui est un super.
Il y a des personnes
personnage.
Comme Jensen qui sont assez caricaturaux, le mec un peu tout fou, machin et tout. Puis en fait, tu te rends compte que le mec a énormément de profondeur à l'intérieur.
Exactement.
Il va te toucher. Le système de combat était plutôt cool. Alors oui, il y avait des temps de chargement un petit peu longuets. Oui, c'était pas toujours régulier esthétiquement, mais alors l'histoire était incroyable, tu le disais à juste titre, il y avait ces moments, il y avait des lectures, tu tombais sur des récits de cet homme millénaire qui pouvait durer, te mettre entre guillemets en pause de ton jeu, de l'action principale, pendant une vingtaine de minutes, quoi. C'était des sacrés à lire, mais je sais pas si quand vous étiez petit, moi j'écoutais des cassettes audio où t'as quelqu'un qui te raconte l'histoire et puis il y a des bruits qui font l'ambiance, le souffle du vent, machin, les portes qui grincent et tout. Et là c'était ça aussi, il y avait des petits sons qui étaient.
Il y avait une ambiance sonore avec.
Et donc t'étais dedans et tu lisais, c'était super bien écrit. D'ailleurs,
un grand scénariste écrivain aussi japonais fait, dont je ne me rappellerai pas de nom. Vous allez nous corriger de toute façon pour ces
choses-là.
Bien
évidemment, vous allez
nous l'indiquer
dans les commentaires.
Mais
pouvais les acheter justement, il l'avait sorti séparément et ça se tenait vraiment et c'était très très beau.
C'était des fragments parfois très poignante, triste, très poignante. Ouais.
Et je trouve que donc il y a une âme. Moi, c'est ça que je cherche en fait dans les jeux vidéo. C'est au-delà de leur graphisme, du rythme, de machin. C'est la trace que ça te laisse. Et c'est pour ça. Ce jeu a été souvent mal noté parce que des petites carences techniques de ci de là, une sorte de classicisme de son système de combat,
l'histoire de cercle concentrique là, il fallait appuyer au moment pour avoir un petit bonus. Enfin,
c'était sympa.
C'est pas nouveau quoi, c'est juste que
il transcendait pas le genre, mais par contre, il allait, à mon sens, ce qui est le plus important, te toucher au cœur et justement, à l'époque pour Gameblog, je me rappelle, c'est l'un des tests qui avait. Et alors, il faudrait regarder aujourd'hui, mais qui a créé le plus de commentaires de la jeune histoire à l'époque de Gameblog, qui avait cartonné. Je l'avais appelé le test vérité. Parce que vraiment, je trouvais. J'avais résumé assez rapidement ce qu'était le jeu et après j'ai vraiment livré mon avis personnel parce que je trouve qu'il avait été injustement bâché de ci de là
parce que c'était
un diamant l'innocence.
Je sais plus combien j'avais mis, il me semble que c'était moi qui l'avais testé sur le Joypad et je crois que j'avais dû lui mettre 8 ou 9 sur 10, il me semble. Donc c'était totalement
pour moi c'est l'un des meilleurs RPG japonais de ces 10 dernières années, tout simplement.
Exact. Je partage ton point de vue.
Il a pas le côté caricatural et chiant qu'ont pu avoir d'autres
comme FF13 par exemple,
voilà, qui sont peut-être techniquement plus aboutis et tout ça, qui sont peut-être plus novateurs avec le système de combat machin, où ça part un peu dans tous les sens et c'est chiant à suivre en fait.
C'était 4 DVD quand même aussi, c'était du lourd.
C'est le défaut entre guillemets de la Xbox qu'on évoquait, quoi, qualité défaut, c'est que du coup sur un DVD il y a beaucoup moins de data que sur un Blu-ray et donc oui.
Mais c'est bien, ça nous rappelait l'époque de la PlayStation.
Oui, c'était bien, moi j'aimais bien.
On avait plusieurs CD.
Et à la fin. Alors, je sais plus si c'est du deuxième ou du premier DVD. Je dirais peut-être que c'est à la fin du deuxième DVD. Il y a une scène qui, pour moi, est dans le.
Une mort des plus tristes.
N'en disons pas plus, mais qui est au panthéon de mon expérience de joueur. Vraiment un truc unique. Où, par exemple, il demande. Enfin, tu peux courir, tu peux jouer normalement et tout. Il faut récupérer des fleurs et rendre un hommage. J'ai tout fait en marchant, tu vois. J'étais là et avec la musique.
C'est avec les enfants en plus que tu le fais, ça, si je me rappelle.
Non, mais c'est somptueux et ça te prend au trip comme ça. Et c'est l'un des rares moments dans ma vie de joueur où là, ça m'a arraché vraiment une larme, où j'étais ému, vraiment.
Ah, je comprends.
Mériterait presque un remaster HD sur Xbox.
Au moins une compatibilité, ce serait pas mal.
Ah oui, une rétrocompatibilité. Ouais, mais même s'il doit pas, être très facile à trouver en
disque.
En case, celui-là.
Oh, si, t'inquiète.
Si.
En tout cas, il y a la BO sur iTunes. Et je la conseille vraiment. Il y a vraiment deux styles dans le jeu. Il y a les musiques de combat et tout, la Nobuo Uematsu très rock et tout.
Y a un
moi
petit peu
c'est pas trop mon truc.
Et de d'atmosphérique dubstep aussi. Non, il y a pas de dubstep, ça va.
Mais les passages orchestraux sont d'une beauté et d'une évocation, enfin d'une puissance évocatrice rare.
Et tu parlais pendant le, tu disais que Final Fantasy XIII était plus abouti.
Techniquement,
ça m'a fait penser à un autre élément de la vie de la Xbox 360, c'est des annonces marquantes. Par exemple, Peter Moore pendant le 3 qui lève sa manche et qui a le tatouage de GTA 4.
Ouais.
Parce que GTA, c'était une licence qui était très associée à Sony. Les jeux sortaient d'abord sur PlayStation et ensuite, éventuellement, t'avais des versions ailleurs. Et là, ils t'annoncent que GTA 4 va sortir d'abord, en même temps sur Xbox et que le DLC sera exclusif à la 360. Et Final Fantasy,
pour 50 millions.
Qui vient, je crois que c'était Hashimoto qui vient pendant que Don Matrick, je crois que c'était Don Matrick qui était en train de faire la présentation pendant le 3 et à la toute fin de conférence il vient lui taper sur l'épaule et on a ça aussi à vous montrer. Et là, Final Fantasy 13 qui arrive sur Xbox 360, je me souviens de NeoGAF qui a littéralement fondu ce soir là les gens qui étaient outrés, c'était une trahison de Square Enix qui trahissait la PlayStation en sortant
comme quoi les phénomènes Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider est pas
il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de
après avoir
trahi
Nintendo en plus.
Ouais, voilà, c'était il continue le cercle. Mais ouais, donc il y a ça aussi. Il y a eu un peu de show sur les annonces de jeux à l'époque de la 360.
C'était
d'ailleurs Sakaguchi pour Blue Dragon et Lost Odyssey avait fait une conférence au Tokyo Game Show et d'ailleurs c'était sympa parce que à l'époque c'était assez rare, mais sur la Xbox tu pouvais aussi télécharger des trailers de jeux et quand il y avait des gros events Tokyo Game Show 3, ils avaient un petit suivi en reportage des trucs. Et par exemple moi j'avais il y avait la conférence de Sakaguchi traduite en anglais sur la Xbox, les autres le faisaient pas. Bah moi je trouvais ça mortel,
il y avait pas que ça, tellement de choses
bien
que,
sûr,
voilà.
Bien sûr.
On va juste après, dans ce genre là il y en a plein à citer.
On va parler de ton coup de cœur à toi Julo, peut-être
juste parce que j'y repense, je pense pas que c'était Hashimoto qui a été venu interrompre la conférence. Je pense que c'était peut-être plus Wada, Yoichi Wada qui était le président à l'époque de Square. Enfin, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça.
D'accord.
Et pour ce que tu disais, la démo de Lost Planet, je me souviens, à l'E3 2005, il y avait, ou 2006, il y avait une démo jouable de Lost Planet et ils l'avaient foutu sur le Xbox Live pour que les gens qui n'étaient pas au salon puissent l'essayer aussi. Donc ça, c'était plutôt
exact,
un bon système.
Et puis il y avait
système.
Aussi le magazine officiel Xbox de chaque pays qui mettait à chaque fois un CD de démo pour un prix à chaque fois.
Ça datait de consoles précédentes. Ça, les CD de démo, on le faisait depuis la PS1, mais...
Ouais.
C'est un peu mort avec la 360.
Oui,
finalement.
D'ailleurs, c'est vrai que ça a marqué la mort de ces trucs-là, effectivement.
Ah, c'est l'arrivée des
démos. C'était tellement
et tout
facile
ça.
De télécharger les démos,
exact.
Les bêtas et tout.
On va parler de ton petit coup de cœur à toi, enfin ton gros coup de cœur même.
Oui, bah moi, franchement, l'un des jeux au top sur cette console, dans mon petit cœur, c'est évidemment Alan Wake. Donc de Remedy Entertainment, qui va nous livrer bientôt Quantum Break. Et ce qui est marrant, c'est que Alan Wake, c'est une vraie comment on appelle ça, les choses dont on parle et qui arrivent jamais.
Hein,
arlésienne. Une arlésienne, merci.
Ah oui.
C'est une véritable, c'est l'arlésienne type de la Xbox 360.
Ouais,
parce que
6 ans on l'a attendu.
Ouais,
un petit peu
de ça. Depuis l'annonce de la console, je crois, il y avait les
2005,
premières images.
2006, il me semble.
Il a fini par sortir un jour, finalement assez différent, je crois, de ce qu'il était prévu au départ.
Ah bah oui, parce que moi, chaque année, je le voyais à l'E3 pendant les confs, et chaque année, le jeu n'avait plus rien. À... Enfin,
oui, c'était un jeu d'action. Après, c'était un jeu d'aventure d'enquête.
Il y avait des mecs avec des capuches noires et ils ont disparu.
Bon, et au final, on se retrouve avec une espèce d'hommage
à Stephen King,
même complètement.
Bah oui, déjà le cadre, c'est un peu le main, comme Stephen King nous l'écrit à chaque fois.
Exactement.
Et il y a Coluche aussi. Avec,
et il y a Coluche en doudoune rouge. C'est clair. Et donc, un jeu aussi qui, vous vous souvenez, était un peu découpé en épisodes, avec donc des une narration
avec des cliffhangers
qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui,
avec le précédent
qui était assez
dans
novatrice à l'époque. Et une ambiance incroyable et une écriture en fait, parce que c'est ça un peu la signature des jeux Remedy, c'est des jeux très écrits, et c'est effectivement incarné par Sam Lake qui est l'auteur des jeux, celui qui en écrit les histoires. Et en l'occurrence, celle-là était vraiment Stephen King-esque, hein, dans le sens où on basculait un peu dans le paranormal sans que les choses soient jamais vraiment expliquées, et avec des atmosphères hyper travaillées. Et là, en l'occurrence, c'est
un gameplay ultra minimaliste.
Alors un gameplay assez minimaliste, clairement, et ce qu'on lui a beaucoup reproché à l'époque, c'était qu'il était surtout redondant, hein, d'un chapitre sur l'autre tu recommençais.
Oui, mais il y a des twists quand même. Au départ tu dois aller vers la lumière, et il y a des endroits où tu dois fuir la lumière notamment, et ça c'était un beau
et je trouve que le gameplay était assez jouissif. D'ailleurs ils l'ont maximisé un peu dans American Nightmare, qui c'est a été une pseudo suite justement sur le Xbox Live uniquement en téléchargement, et qui reprenait le même système et qui l'avait qui lui donnait un punch supplémentaire, mais qui était vraiment basé exactement sur les mêmes mécaniques, comme quoi il y avait une bonne base. Mais c'est vrai que ce qui faisait avant tout pour moi, les qualités de Alan Wake, c'était son histoire et la façon dont elle a été racontée, évidemment, et son atmosphère qui était hyper pesante. C'était magnifique visuellement. C'est pas trop technique, c'est plus esthétique d'ailleurs. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré, qui m'a fait un petit peu peur quand je me baladais dans les forêts sombres et que d'un seul coup des mecs arrivaient, t'encerclaient et qu'il fallait t'enfuir et tout. Voilà.
Mais qui avait son petit moment de, on va dire, drôle avec la scène du concert.
Il y a une scène what the fuck en plein milieu du jeu.
C'est ce que j'allais dire. Je trouve que Alan Wake, il est intéressant au sens où il est oppressant, il fait peur, quand même à te faire rire. Parce que je me souviens d'un passage où tu es accompagné à distance par, je crois qu'il s'appelait Barry, son pote.
Aucun souvenir.
Il a le mec en doudoune rouge là qu'on a vu.
Coluche.
Il est entouré de guirlandes électriques pour être
de la lumière.
Pour faire de la lumière. Et il t'accompagne de loin et il te parle pendant tout le truc. Et c'est assez drôle. Et la fameuse scène du concert qui tombe à un moment. Enfin, tu t'y attends pas du tout. Tu ne doutes pas que ça va partir comme ça. Et c'est super. Super marquant. Et il arrivait quand même à être drôle un petit peu par moment. Et moi, un truc, c'est vraiment un détail dans le jeu dans son ensemble, mais un truc qui m'a vachement marqué, c'est les stations de radio, enfin les postes de radio,
les postes
que tu
de
peux
télé
trouver
aussi, avec
et
en des fait, épisodes de la série qu'il était censé écrire.
Ouais, mais c'est pas trop ça. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est en fait tu allumais la radio et au fur et à mesure que tu progressais, tu suivais l'émission de la nuit de la radio locale, et t'avais une ambiance qui se dégageait de cette émission de radio, parce que tout le jeu se déroule pendant la nuit forcément, et ça m'a marqué, parce que ça, moi je trouve que ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le monde du jeu. J'arrive pas à me souvenir du nom de la ville, mais
autre petit détail qui a eu une véritable importance dans mon expérience à moi, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, le jeu est sorti dans une version collector qui coûtait que 60€ finalement,
avec le livre,
et il y avait un livre avec, et ce livre montrait bien à quel point ce jeu avait été écrit, pensé dans un univers vaste et cohérent avec plein de personnages, etc. Et c'était le livre qui était écrit par un enquêteur suite aux événements d'Alan Wake sur l'histoire d'Alan Wake, et moi je l'ai lu petit à petit en même temps que je jouais. C'était une expérience géniale. C'était un peu dangereux parce que je risquais à chaque fois de me spoiler, donc je faisais très attention en regardant vaguement les images qui illustraient ce livre. Si c'était des trucs que j'avais pas vraiment vu, je faisais gaffe, j'y allais pas.
À la fois, c'était dans le jeu lui-même, en fait, il te spoilait presque volontairement. Tu sais, tu récupérais des fragments
de la narration du jeu était comme ça.
Qui t'expliquait ce qui allait se passer, genre une flopée de corbeaux arrive et machin.
En fait, Alan Wake retrouvait les pages qu'il était censé avoir écrites alors qu'il avait aucun souvenir de les avoir écrites. Il y avait une narration comme ça, a priori, on va dire, qui était assez géniale. Un jeu extrêmement marquant, mais dont j'attends tellement une suite ou au moins quelque chose s'approchant un petit peu d'une suite.
Ça viendra.
Ouais, parce qu'en plus on reste sur un grand mystère. On peut avoir de multiples interprétations de la fin du jeu.
Est-ce que tu crois vraiment que si suite il y a, ce qui paraîtrait envisageable, ce soit la suite et non pas plutôt dans l'univers d'Alan Wake, parce que pour moi je sais pas si on peut vraiment continuer avec ces personnages-là. Enfin, si ça a vraiment du sens.
C'est ce qu'ils avaient prévu de faire avant American Nightmare. C'est ce qu'ils voulaient.
American Nightmare est très intéressant à ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une espèce de... il est dans ce qu'il appelait la chambre noire, je crois. Ce moment où il doit être inconscient et perdu dans les limbes un peu. Et c'est ça qui se passe dans American Nightmare. C'est qu'il recommence 10 fois les mêmes trucs. Il y a une espèce de... comme dans un épisode, vous savez, de cette série géniale, Twilight Zone, la quatrième dimension. Les vieux épisodes en noir et blanc avec le mec mec qui casse sa montre, le monde s'arrête autour de lui. Tu sais, c'est ce genre un peu de d'ambiance là. Et dans American Nightmare, du coup, ils ont très bien vu la chose, je trouve. Et je pense que s'ils faisaient une suite d'Alan Wake 2, ça serait peut-être un réveil le véritable réveil d'Alan Wake. Et une enquête a posteriori sur ce qui s'est passé, parce que sa femme pourrait toujours ne pas être là. Voilà, enfin, il y a des tas de trucs à faire tout en restant, parce que le jeu il reste finalement sans aucune explication. Hein. Il est très 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 libre, t'es très libre d'interpréter la fin du jeu, et donc on est très libre, je pense, de concevoir une suite en donnant un sens justement à la fin du premier Alan Wake. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, moi, vraiment.
D'accord, ça comptait. Ça, en fait, Alan Wake comptait pas parmi les jeux qui ont eu une espèce d'exclusivité temporaire parce qu'il est sorti sur PC plusieurs années plus tard.
Ouais, mais le PC, c'est une exclusivité Microsoft, on va dire.
Ouais,
et
voilà.
Et globalement, il s'est quand même majoritairement vendu sur 360.
C'est pour faire une petite transition, en fait, vers d'autres jeux dont on voulait parler, à savoir par exemple BioShock. Ou encore Mass Effect, qui sont des jeux qui sont sortis d'abord.
Bah, qui sont
ouais, mais qui sont sortis après sur PlayStation aussi. Alors que là, ouais, vraiment, Alan Wake, il est resté vraiment dans l'univers Microsoft.
Mais cela dit, effectivement, Mass Effect, premier du nom,
est resté sur Xbox 360, par contre.
Oui, c'est une vraie exclusivité.
Et PC.
Ah bah non, mais et PlayStation.
PlayStation, c'est à partir du 2 que ils
oui,
ont...
c'est
ah,
à partir
oui,
du 2.
Ah oui, mais je parlais de... oui,
ouais, je parlais du premier épisode.
Mais c'est des jeux qui sont marqués Xbox 360, quoi, en tout cas.
Comme BioShock.
BioShock, ça a duré quand même un ou deux ans
à arriver. Et moi, ça a été l'une de mes claques de la 360 totale, quoi. Pour moi, c'est l'une des meilleures intros de l'histoire du jeu vidéo, la première demi-heure. Ouais. Et on parlait de claque HD. Ah, moi je me la suis pris, mais alors façon, quand t'es sous l'eau avec le bâtiscaphe qui monte, l'eau qui ruisselle,
et quand tu vois Rapture pour la première fois au travers des vitres.
Ah ouais, c'était magnifique, mais je regardais les effets d'eau et la propagation de l'eau et comment elle sortait, tu sais, t'arrivais dans les espèces de tubes en verre là, qui descendent sous l'eau, et puis il y avait des endroits où c'était fendu, et je regardais comment c'était fait, mais vraiment là je me rappelle de, comme dans Ocarina of Time, où je me mettais pendant 10 minutes dans le cimetière pour regarder la pluie et l'orage bouger. Là, je regardais l'eau et les particules et je me disais, putain, mais c'est un truc de fou. Et puis après, bon, le jeu en lui-même m'a énormément plu. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu que j'ai vécu sur 360 et donc ça fait partie du panthéon des jeux qui ont fait ma 360, ma console de prédilection de la génération passée.
Et d'ailleurs, le point commun d'ailleurs entre Alan Wake, BioShock et ce genre de jeu, c'est que vraiment ils étaient tellement différents de ce qu'on avait l'habitude de jouer, de voir.
Oublie Oblivion d'ailleurs, hein, qui
était
sorti aussi
mais
sur
Xbox 360. Le look de BioShock, quoi. Enfin, je veux dire, on n'avait jamais vu ça. Une intro comme ça, c'était vraiment des jeux à part, quoi.
C'est pour ça qu'il fait la Dreamcast aussi, c'est que exactement. C'était des expériences qui étaient inhabituelles et auquel on n'avait pas l'habitude de jouer et qu'on n'avait pas vu avant, tout simplement. Et c'est vrai que ils ont établi des bases qui ont été reprises à maintes reprises sur toutes les autres plateformes ensuite, quoi.
Bah, je compte sur vous d'ailleurs, hein, dans les commentaires, pour nous dire quels sont les autres jeux expériences que vous avez adoré sur Xbox 360. Et Julien, tu voulais rajouter un truc?
Il y a quelque chose, mais alors là c'est à titre personnel, hein, je sais pas pour vous, hein, vous nous direz dans le forum ici aussi, mais la 360, c'est la première console pour moi en tant que joueur où j'ai majoritairement joué à des productions occidentales et beaucoup moins sur cette génération à des productions japonaises. Et j'ai adoré ce que j'ai joué. Mais du coup, et c'était rafraîchissant parce que je jouais à des genres qu'avant j'en avais rien à faire. Comme disait Romain avec Halo, moi les FPS c'était vraiment pas mon truc. Là, entre BioShock, entre Condemned, j'ai vécu des trucs first person qui m'ont tellement immergé, et j'ai trouvé que c'était à partir de cette génération-là, et donc pour moi, sur 360, que les FPS étaient entre guillemets ce que j'appelle solide. C'est-à-dire que même moi, GoldenEye et compagnie, je sais que les gens adorent, mais moi je trouvais ça horrible, mais horrible. C'était d'une mocheté intersidérale, quoi. C'est-à-dire que je le percevais comme on le perçoit aujourd'hui, c'est-à-dire moche, inintéressant. Alors oui, d'accord, tu tirais sur le genou, il se baissait, mais je trouve ça nul. J'arrivais pas à m'immerger. Perfect Dark.
Tu viens de perdre un ami là.
Probablement, mais c'est pas grave. Je dis ce que je pense. Alors que là, je trouvais qu'on était totalement. On regardait les univers, ils étaient vastes, riches, ultra immersifs. Et là, j'ai fait.
Ouais, la possibilité est arrivée avec la Xbox
360. Là, c'est bon, j'adhère.
On parle souvent, justement, à partir de cette génération du déclin du jeu vidéo japonais. Faut pas oublier que le déclin est d'autant plus remarquable que, en fait, en face, il y avait tout le contraire du côté du jeu occidental. C'est-à-dire, c'est le moment où le jeu occidental s'est mis à faire des expériences plus solides, comme tu dis. Moi, je le ressens comme ça aussi, avec des avec même des RPG, enfin des genres qui du coup nous donnaient l'impression d'être réinventés totalement, même s'ils avaient toujours été comme ça sur PC et tout. Nous on redécouvrait des RPG occidentaux, des jeux d'action occidentaux.
Assassin's Creed et voilà, aussi sur cette génération là
exactement.
Mais même s'il n'était pas parfait le premier, tu peux pas faire autrement que
c'est le moment où ça s'est renouvelé totalement aussi de ce côté du monde quoi.
Et ça montrait aussi que le FPS, enfin le FP plutôt, c'était pas forcément un jeu de tir décérébré, que tu pouvais avec ce type de vue et ce type de gameplay quand même proposer une narration sophistiquée, des idées de gameplay originales. Et c'est vrai qu'avant le jeu occidental, il n'y avait pas que ça évidemment, mais tu pouvais l'associer au jeu à licence, tu sais, des studios qui récupéraient les licences de films ou de dessins animés et qui te balançaient des trucs un peu moisis.
Un peu naze.
Là, ils ont vraiment essayé de faire des gros jeux, de vraies expériences. On leur a donné les moyens de le faire et ça a bien marché. La mayonnaise a pris. L'architecture de la Xbox 360
facilité beaucoup de travail
devait certainement bien plaire aux développeurs occidentaux.
C'est aussi vraiment la génération sur laquelle la bascule s'est effectuée. C'est-à-dire que là, technologiquement, en termes de moyens financiers et de moyens humains, si tu veux être au niveau, alors il faut vraiment franchir un cap. Là, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire ton jeu à 30 ou 60 personnes. Il faut passer à 200, 300, voire plus. Et clairement, à chaque fois que tu en parles avec des Japonais ou des Occidentaux, la cassure, ce n'est pas que soudainement les Japonais sont devenus nuls techniquement. C'est que en termes de management, ils n'arrivaient pas à driver des équipes aussi fortes, aussi importantes sur des projets ramassés, là où les Occidentaux ont des méthodes de travail super bien adaptées et qu'ils ont appliquées, et puis ça, ils ont dépoté quoi.
Et d'ailleurs, on a parlé de ces exclus qui ont fait la Xbox, etc. Il y a aussi, pour nous, qui au bout d'un moment, nous avons eu également une PS3 à côté, toutes ces choses qui ont fait qu'on a toujours privilégié dans les jeux multi les versions 360, parce que c'est devenu la lead platform de cette génération. Et ça, on le doit évidemment en partie au succès naissant, etc., mais aussi au fait qu'elle était là un an avant et que donc les développeurs ont commencé à développer sur des kits 360 et à porter leurs jeux sur PS3. Et finalement, c'est resté comme ça.
Et parce que clairement, en termes technologiques, la Xbox 360 était plus facile d'accès que ne l'a été la PS3, qui était certes super si tu arrives à utiliser tout le sel et compagnie, mais qui était du coup un peu l'apanage des studios.
Et du coup, il y a
exclusif Sony,
exemples,
et tout le reste c'était la galère quoi.
Il y a des exemples vraiment frappants, et y compris du côté japonais avec Bayonetta par exemple, qui était juste terriblement moins beau sur
Il y avait
sur
du
PS3.
Tearing de ouf, de l'aliasing, ça ramait,
il était flou. Il y avait une sorte de pellicule
il y a plein de jeux et beaucoup de jeux, enfin même
Ils ont su utiliser toutes leurs armes.
Étaient quand même beaucoup moins réussi.
Et puis sur des gros jeux, genre Red Dead par exemple, je suis désolé, mais Red Dead était meilleur sur Xbox 360 que sur PS3.
Tous les jeux multi étaient meilleurs sur.
Pas tous. Puis au bout d'un moment, ça s'est lissé. Mais entre guillemets, le mal était fait ou le bien était fait en fonction de machin. Et c'est amusant de voir que finalement, c'est tout l'inverse sur cette génération sur la génération actuelle.
Et après, tu vois la Xbox 360, quand tu voulais jouer en ligne. Le gold, enfin ça a toujours été payant. Ça, c'est dès le day one de la 360.
Mais tu savais pourquoi.
Voilà.
C'était bien.
Et franchement, j'ai eu la PS3, j'ai eu une PS3 japonaise immédiatement. Donc dès sa sortie, j'aurais pu basculer mon jeu en ligne sur PS3 pour que ça me coûte rien. Ben non, j'ai payé jusqu'à la fin du gold et je l'ai jamais regretté parce que les mises à jour se faisaient super rapidement, le service était stable et fiable, et ça marchait bien. Ouais. Il y a le jeu en ligne sur Xbox 360, d'un point de vue de mise en place et de fonctionnement, bah c'était simple et ça marchait bien.
Ça l'est toujours aujourd'hui, le Xbox Live de manière générale. C'est quelque chose qui était très fiable, très solide, et puis ça proposait des petites expériences sympas et des jeux aussi, notamment, mais surtout des expériences. Moi, j'ai envie de me rappeler de 1 contre 100 en ce qui me concerne. C'est quelque chose
j'ai beaucoup aimé 1 contre 100 aussi.
C'est quelque chose qui était unique. Oui, parce que je gagnais. Et voilà pourquoi.
Non.
Parce que quoi ?
Il y avait comment elle s'appelait cette animatrice
Virginie Guillaume quand on a fait la présentation.
Quand est-ce qu'on en parle ?
Ah, mais moi j'aime pas spécialement Virginie Guillaume, même si elle était très sympa.
Ouais.
Mais c'était oui parce que j'ai fait une on a fait la présentation tous ensemble. D'ailleurs toi tu m'insultais pendant le truc en disant ouais gruge machin, alors que j'étais premier en fait pendant toute la session de jeu de 1 contre 100.
Et là que je me la pète.
Bah c'est la vérité, donc c'est pas voilà. Et donc
on a des
elle venait
de
me voir. Non, on a pas, je crois pas que ça a été filmé alors.
Je crois que c'est faux.
Et donc elle venait me,
j'étais là.
Elle voyait que j'étais premier plein de fois et elle venait me voir. Elle fait mais qu'est-ce que tu fais dans le, qu'est-ce qu'elle m'avait dit exactement, qu'est-ce que tu fais comme dans le journalisme, qu'est-ce que tu fais dans les jeux vidéo, un truc comme ça. Alors que je faisais juste répondre.
Sympa.
Qu'est-ce que je faisais juste que répondre.
Qu'est-ce que tu fais avec tous ces débiles là.
Ouais voilà, je faisais que répondre à des trucs de culture générale des fois avec beaucoup de chance. Et donc voilà, oui c'était rigolo d'ailleurs comme présentation. Mais bon ça c'était le genre d'expérience que seule la Xbox 360 pouvait permettre. Elle offrait aussi en termes de multimédia des choses qui n'étaient pas forcément visibles chez tout le monde. Il y a eu la possibilité, et je crois que Chulo, toi tu faisais partie de ces gens-là, de regarder
tu sais,
ta télé comme tu le fais encore aujourd'hui.
Non,
avec
non, non, tu pouvais pas regarder la télé.
Tu pouvais t'abonner.
Non, c'est pas ça. C'est, non, t'avais des applications.
Il y avait des applications.
T'avais des applications. Canal, voilà, sport, comme aujourd'hui, ça devient juste normal. T'as ton application Plus, ton application Netflix, ton application.
Ouais, des abonnements.
Mais en fait, ça, on l'a découvert sur Xbox 360. Et le nom même de cette console, 360, vient justement de cette volonté de Microsoft de couvrir les médias d'une manière complètement à 360 degrés. Mmh. C'est-à-dire du jeu vidéo jusqu'à l'entertainment, la télé, etc. Les films, la location. C'est là aussi que on a découvert la location de films en un claquement de doigts en HD avec un film qui démarrait immédiatement. Mais
sans
vous rappelez, à l'époque, ça nous avait frappé.
Puis surtout, c'était pas le cas sur PS3.
Et c'était pas du tout le cas sur PS3 où t'avais un streaming qui fonctionnait pas ou mal. Et donc, t'avais les applications Canal+, les applications Orange, etc. Enfin. Ça devenait effectivement une plateforme qui allait bien au-delà de ce que proposait le jeu vidéo seul. Et d'ailleurs, c'est encore un truc qui me fait penser un petit peu à la Dreamcast, parce que je me souviens qu'à l'époque, ta Dreamcast, tu ouvrais la boîte, hop, t'avais le petit disque qui s'appelait Dreamkey que tu mettais, qui ça te permettait de faire d'avoir un email Sega, de consulter une espèce de plateforme qui te donnait les informations sur les jeux, qui te permettait de commander Chouchou Rocket quand il est sorti, etc. Enfin, cette expérience-là un peu nouvelle. Voilà, on l'a
et regardez ces matchs de foot.
Il y avait
les
matchs de foot aussi quand t'étais abonné à Foot Plus, ce qui était mon cas. Tu pouvais regarder le match du week-end avec un écran dans l'écran et devant cet écran ton petit avatar, parce qu'il y a les avatars grâce aux mises à jour successives de la console. Et tes avatars faisaient ouais, comme ça tu pouvais leur faire des trucs et tu te mettais à côté de ton pote et tu pouvais parler avec ton casque micro. Parce que n'oublions pas, la console était livrée avec un casque micro, ce qui était nouveau aussi.
Le modèle premium,
c'était nouveau aussi. Bref, c'était une console connectée à 360 degrés sur tous les
très complètes.
En fait, elle faisait ce que la One fait aujourd'hui, mais sauf qu'elle l'a mieux introduit quoi.
Elle l'a fait
petit
à petit.
Toute la partie jeu qui n'était pas sous-exploitée et en plus plein de petites choses. Et effectivement, c'est ta raison de parler des avatars parce que sous l'impulsion clairement du succès des Mii de Nintendo, Microsoft avait riposté quelques temps après avec
les
avatars.
Vite, hein, très vite.
Et moi je les trouvais super cool ces avatars.
Ils sont super cool.
Sont
et d'ailleurs,
plus sympas
ils viennent simplement depuis la dernière mise à jour de faire leur retour sur Xbox One.
C'était une bêtise de leur
dire. Et les gens sont assez contents parce que du coup maintenant quand tu es ami avec quelqu'un et que ça remplit le flux d'actualité, tu vois les petits avatars qui font coucou, etc.
C'était mignon. C'est une interface qui quoi tous les ans
à tous les automnes.
Tous les ans ouais.
Changeait quoi, ce qui fait que ta console 4 ans après l'avoir acheté, t'avais l'impression d'avoir une nouvelle console à chaque
4,
fois quoi. Et parce que
il y en a qui en ont eu 4 mais on en parlera tout à l'heure.
Ça, c'est sûr. mais ouais, t'avais cette espèce de sensation de fraîcheur de et en plus moi je trouve que globalement les mises à jour à chaque fois elles étaient de mieux en mieux quoi. Donc
t'avais l'impression que derrière cette filiale, on va dire Xbox, il y avait tout un tas de cerveaux qui voulaient absolument faire de l'innovation tout le temps. Tout le temps il y avait des nouveaux trucs, des nouvelles applications, des nouvelles versions du dashboard, des nouveaux concepts, des nouvelles choses tout le temps,
tout ce qu'on pouvait paramétrer sur le dashboard d'ailleurs.
Et t'avais l'impression que la PS3 en face était en réaction, en fait tout était en réaction. Il y avait un leader de l'innovation
et puis
c'était Microsoft.
La PS3 n'a jamais mis à jour, enfin il y a eu des mises à jour de l'interface, enfin de l'OS
toujours.
Mais l'interface est restée toujours la crosse machin media bar là je crois. On l'aime pas,
PSP,
elle est classique, elle marche bien et tout, mais du coup t'avais pas de rafraîchissement alors que t'avais l'impression d'avoir cette nouvelle console. Moi je me rappelle au début, alors ça fait vraiment ringard quand tu le regardes en 2015, mais les, comment ils appelaient ça, les Blade, Ouais. Je crois sur le côté là, orange, rose,
ça, ça
gris,
fait deux ans, je crois.
Clac, 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 que tu panotais avec tes petites.
Mais oui.
Avec les gâchettes. Bah, c'était super cool, très intuitif. Et quand il y a eu la mise à jour après qui est passée avec les tuiles, putain, tu faisais. Et qui était plus, beaucoup plus sobre, grise et tout.
Tu faisais tout en horizontalité.
Putain, c'est classe. Et c'était moderne parce que c'était un peu à l'époque de iTunes avec les jaquettes.
C'était
et tout,
moderne. Et t'appuyais sur un putain de bouton et les applications se lançaient immédiatement. Les films, il y avait un côté vraiment.
Ça téléchargeait en toile de fond et tout. Enfin, elle était.
Et quand tu mettais. Jour, tout le monde était impressionné justement quand ils ont fait cette grosse mise à jour là, celle où on est passé effectivement des barres sur les côtés au truc qui se déroulait en tuiles. Je sais pas si vous vous souvenez, moi ça a dû prendre 5 minutes à mettre à jour la console, à tel point qu'on se disait à l'époque, oh là là, ça doit faire des semaines qu'ils téléchargent en toile de fond sans nous le dire. C'était dingue, ça, en 5 minutes ça se mettait à jour.
Moi au début j'étais un peu triste parce que j'étais tellement habitué aux Blades, mais alors ça a pas duré longtemps hein. Tu utilises le nouveau truc, c'était très très vite fait, tu t'y habituais et ouais, ça marchait bien et c'était intuitif. T'as jamais eu l'impression de perdre ton contenu en fait, de pas savoir où le retrouver, tout était accessible.
Ouais, parce que t'avais le dashboard aussi, tu sais, qui se lançait quand t'appuyais sur le bouton Xbox.
Ouais, voilà. Ça c'est un raccourci qui était très que j'ai utilisé un nombre incalculable de fois.
Et puis il y avait les succès. C'est là aussi, c'est
alors là, c'est voilà. Comment ne l'a-t-on abordé jusqu'à maintenant? C'est vrai, c'est la plus grosse innovation. Enfin, on va dire l'innovation qui est plus rentrée dans la normalité aujourd'hui.
Et je trouve que c'était un moyen d'une intelligence rare de fidéliser les gens. Parce que par exemple, moi, une fois que j'ai commencé, moi, je suis pas du tout un complétiste. Hein, je m'en fous un peu. Mais enfin, néanmoins, tu te prends quand même un peu au jeu. Ouais. Tu compares. Tu pouvais comparer avec tes potes, genre les jeux que t'avais en commun, combien t'as succès en plus, en moins, machin.
Est-ce que j'ai pu rincer le jeu avec mon pote?
Et du coup, bah, t'as deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Quand t'as un jeu multi, bon, tu regardes. Pendant longtemps, les jeux multi étaient un peu plus beaux sur 360. Alors déjà, tu te dis, bon, je vais peut-être quand même plutôt le prendre si t'as les deux consoles sur la 360. Et puis en plus, tu te dis, ah, et puis je vais gagner des points et machin et tout. Bah voilà, bah tu bascules. C'est comme plein de gens aujourd'hui.
Plein de gens faisaient des compètes
entre iPhone et Android. C'est super compliqué finalement. Enfin, c'est un move assez important de changer d'interface, enfin de d'OS, quel que soit le sens, hein, parce que tu perds tes applications et tu perds certaines choses. Alors maintenant, il y a des systèmes pour récupérer un peu, mais enfin, pas tout. Donc là, tu crées une fidélité en plus à la marque, au décompte. Et je trouvais ça super malin.
Et c'est un moyen, en plus, mine de rien, d'augmenter considérablement la durée de vie des jeux. Parce que avant, tu fais ta campagne. Si c'est un jeu qui a juste une campagne, tu fais ta campagne. Bah, tu laisses tomber. Parce que oui, il y a des petites quêtes annexes, des petits trucs à récupérer.
Mais
t'avais pas de symbole qui te récompensait pour le temps que tu avais passé et le mal que tu t'étais donné. Alors que là, si tu faisais l'effort de faire toutes les petites quêtes annexes, de récupérer les différents trucs sur la map, et ben là, t'avais le truc qui te disait, tu l'as fait, la voilà la preuve. Et merci d'avoir joué quoi.
Et il y a même des parce que moi comme du coup je suis pas du tout complétiste, généralement je regardais pas les défis pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Par contre, je récupérais des trucs sans savoir et genre tu vois que ah tiens, qu'est-ce que c'est, et puis t'appuyais sur le bouton qui te donnait un petit résumé, vous venez d'abattre 75 zombies, tu fais ah c'est marrant tiens. Ah tiens, vous avez cherché tous les tombeaux dans je sais pas quoi, Tomb Raider. Ah tiens, c'est marrant, enfin. Et du coup tu t'apprends toi-même tes félicités sans trop le savoir de ta partie, de comment tu joues. Moi je trouvais ça très motivant et puis c'était bien intégré.
Et même si tu t'en fous à la base, le fait d'en débloquer plusieurs au hasard, tu dis bah, tu regardes et ensuite tu regardes quand même la liste des autres, tu dis bah, celui-là je pense que je suis pas très loin de pouvoir le faire, donc tu le tentes et ensuite tu dis bon alors ensuite ah bah celui-là je vais le faire aussi, etc. Moi en fait c'était les succès, je les utilise, et finalement les trophées aussi je les utilise comme un moyen de montrer aux développeurs, parce que tu sais toutes ces données d'utilisation sont traquées hein. ils savent tout ce que tu fais, ta moyenne, etc. Pour moi c'était un moyen de
Il y a eu 26 millions de succès sur Xbox 360.
De quoi?
26 millions de succès,
un moyen de montrer aux développeurs que j'avais apprécié leur jeu et c'était moyen de montrer mon intérêt.
Ça me paraît pas beaucoup.
C'était dans l'infographie.
C'est pas 260 millions?
26 millions, c'est vrai.
Parce que 26 millions, ça me paraît très peu, parce que c'est moins
des
d'un
succès.
Oui, mais c'est moins. Ah, attends.
Des succès débloqués.
Bah oui, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que si t'es avec 85 millions de consoles, c'est-à-dire que
c'est pas possible.
J'aurais mis 200. Ouais,
je pense que c'est peut-être 200... 260 millions. Ça me paraît très.
26 milliards.
Ou peut-être 26 milliards, oui, c'est possible.
À mon avis, c'est plus ça.
En tout cas, les 13 millions d'années de jeu en ligne, ça doit être vrai. À mon avis. Et le jeu en ligne, c'était évidemment le Xbox Live, on en a beaucoup parlé là tout de suite. Et il y avait sur le Xbox Live un phénomène de poussée du jeu indé et du jeu rétro.
Bah oui. Non, mais c'est même pas une poussée, c'est né. C'est né là, quoi.
Moi, j'ai découvert.
Enfin, pas le jeu indépendant, ouais, mais c'est là qu'est
la démocratisation.
La démocratisation qui est née.
Il existait déjà dans les années 90. Dans les années 80-90, le jeu était principalement indépendant. Là, il a été poussé devant comme jamais. Aucun constructeur.
C'est le Xbox Live Arcade, ça s'appelait comme ça au départ.
Il y avait le Xbox Live Arcade, effectivement. Il y avait des programmes comme le XNA.
Le pionnier, c'est Braid. C'est le premier vrai succès.
C'est le jeu. Moi je mettrais Symphony of the Night qui avait
numéro 1 c'est Braid
en termes de rétro, en termes de
Castle
rétro.
Crashers,
oui, mais il était déjà sorti.
Il était déjà sorti, mais ça avait permis
il y avait
d'avoir des jeux de meilleure qualité. En fait, je parle de rétro, hein, parce que il y avait une limite de quelques mégas seulement pour les jeux.
Oui, t'avais un poids limite sur les jeux.
Exactement. C'était 50 mégas. Et Symphony of the Night est arrivé, a dit non, faut qu'on fasse beaucoup plus. Et bim, ils ont été obligés de repousser la limite à cause de ce jeu-là. Et du coup, effectivement, ça a permis peut-être l'élaboration de jeux beaucoup plus consistants.
Shadow Complex.
Par la suite, exactement.
Putain, Shadow Complex. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Et j'attends une suite toujours. Limbo, incroyable.
Ah, Limbo qui est sorti d'abord.
Fantastique. Bien avant. Hein.
Mais il y avait le programme XNA donc qui a permis de pousser des jeux indépendants. Moi il y en a un que j'aime énormément et vous le connaissez aussi, c'est Bereb qui avait dû vous en parler, c'était Hidden in Plain Sight. Vous vous rappelez? Genre 99 centimes le truc.
Ça c'était en fin de vie ça.
Et puis évidemment
l'un des premiers c'est Trials. Fez.
Fez, ouais.
Attends, Fez.
Fez qui vient d'avoir une petite version physique là que vous pouvez précommander. La news est sur Gameblog. Et en fait, il y avait aussi le rendez-vous de l'été, un petit peu.
Le Summer of Arcade.
Le Summer of Arcade, effectivement. On attendait les gros jeux qui allaient être montrés parce que, en général, Microsoft avait du pif pour les jeux qu'ils allaient mettre l'été. Et on se disait, bon, ils pourront pas se planter. Bah, d'ailleurs, Shadow Complex en faisait partie. Braid, je crois, aussi en faisait partie. Et il y avait 5-6 jeux comme ça qui étaient balancés pendant l'été, pas très cher, et c'était des bombes à chaque fois.
C'est vrai que c'est devenu un rendez-vous attendu, le listing du Summer of Arcade avec les différentes dates auxquelles les jeux allaient être sortis.
Je crois même qu'il y avait
Trials HD. Je pensais que j'allais aimer un jeu de motocross.
Ah, il était fantastique, ce jeu. Fantastique.
Ouais. Et en parallèle à ça, il y avait aussi du rétro.
Les premiers remakes avec la possibilité d'appuyer sur un bouton pour passer de l'ancienne à la nouvelle version, ça c'était génial aussi. Il y a eu les Monkey Island, pas mal de shoots aussi.
Même des jeux qui ont été refaits, Pac-Man Championship Edition.
Il est génial. C'est un des jeux les plus extraordinaires du XBLA. Pac-Man Championship Edition, et il fait partie des jeux, si vous avez une Xbox One aujourd'hui, qui sont rétro-compatibles.
Comme Zuma.
Cool. Ça c'est un jeu extraordinaire. Vraiment, Pac-Man était génial.
Maintenant que j'y repense, dans les tout premiers jeux Xbox Live Arcade, voilà, Geometry Wars. Je me souviens, Geometry Wars, tu pouvais, histoire de te mettre l'eau à la bouche, dans PGR3, donc Project Gotham Racing 3, tu avais ton garage où tu pouvais aller voir tes bagnoles, et tu avais une borne d'arcade dans ton garage qui te permettait de jouer
Geometry Wars. C'est comme ça que le jeu est né. Ils n'avaient pas prévu de le commercialiser.
Ah bon?
C'était un jeu qui était. Ils avaient créé un jeu vite fait pour le foot dans PGR. Et après, ça a eu un tel succès qu'ils ont dit, on va faire une version XBLA, et ils ont fait la version XBLA.
C'est pareil, quand j'ai essayé Geometry Wars dans Project Gotham Racing, à la base, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et visuellement, c'était particulier, mais ça marchait
c'est un
bien.
Jeu à zone.
Voilà, puis on parle de Castle Crashers aussi, évidemment. Il y a eu Super Meat Boy qui est d'abord Super sorti sur Xbox 360. Il y en a eu tellement.
C'est là, on en parlait il y a quelques instants, de la fraîcheur qu'il y avait. On pouvait passer du gros triple A à l'indé et tout. Et c'était. En tout cas, ça faisait longtemps que c'était pas le cas sur console. Hein, on parle bien vraiment à chaque fois de la console. Et ça, c'est sûr que sur 360, c'était un havre d'expression pour ces jeux. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé. Et d'ailleurs, il y en a quand même pas mal à côté maintenant. Mais sur cette génération-là, c'est vraiment la 360 qui a mené sa barque de main de maître.
C'est devenu un peu un champ de bataille aussi, le jeu indé, finalement. Regardez les indés que nous avons sur notre machine. Regardez comme on est cool. C'est un peu la frange hipster du
Et puis ce dont je me rappelle aussi, c'est que
Sony a largement récupéré aujourd'hui.
Quand il y a eu un vrai succès comme ça des jeux indés, les gros éditeurs, Electronic Arts, etc., se sont mis à développer des petits jeux entre guillemets pour récupérer les bonnes places de mise en avant sur le XBLA. Et ça, c'était marrant, c'était un retour. La boucle était bouclée, quoi.
C'est Shadow Complex qu'on est en train de
absolument,
voir.
Absolument, ouais. Si vous êtes premium, vous pouvez voir Shadow Complex.
Mais Shadow Complex, c'est Metroid d'aujourd'hui, quoi.
Ouais, enfin, bon, c'était
plus aujourd'hui maintenant, mais il était.
Un super jeu.
Génial, super profondeur, gameplay au top, ambiance fantastique. Ils avaient évoquer un Shadow Complex 2, hein, on l'attend toujours.
Oui, oui, t'inquiète pas, il arrivera un jour. Mais c'est vrai qu'avec Infinity Blade, je crois qu'ils se sont fait suffisamment d'argent que ça, ouais. Ils peuvent
pourquoi se faire chier.
Ouais, voilà, pourquoi s'emmerder alors qu'on peut tranquillement partir à la retraite avec tout l'argent qu'on a amassé. Bon, on a fait le tour des bonnes choses depuis tout à l'heure, hein, pour la Xbox 360.
Ce qui fait que ça en est pas mal, parce qu'on est à combien de temps là? Plus d'une heure.
Ouais, ouais, c'est.
Y a plus d'une heure de bonnes choses. A priori, c'est qu'il y en a pas mal.
On a même occulté la manette
qui était super.
Pourtant, une super manette.
Extraordinaire.
Moi, j'ai trouvé génial.
Si ce n'est la croix de direction qui faisait tiep quand même.
Ouais. Changé avec la version Silver qui est apparue des années plus tard. Ouais, mais bon.
Bah, personne l'a eu.
Bah, je l'ai eu. Je l'ai cassé. Bon.
Non, elle était vraiment. Elle tenait bien en main, elle était bien lestée. Rien à voir avec la DualShock 3
et ne pas oublier les gâchettes extraordinaires de la manette.
Et compatible en version filaire avec un PC immédiatement.
Le stick analogique était bien
la tête, et sinon avec un récepteur pour la version sans fil. Une manette de légende, comme on dit, qui a bien inspiré celle de la Xbox One, qui aujourd'hui est peut-être la meilleure manette qui existe tout court.
C'est une transition en fait
de la version S de la
sur la première, voilà, sur la première Xbox, t'as le Duke qui est une expérience ratée.
Aberration.
Ensuite, quand ils l'ont transformé en modèle S, qui est beaucoup plus petit,
qui était la version destinée aux Japonais au départ.
Voilà, si tu regardes le modèle S et le positionnement des boutons et la forme générale de la manette, ça ressemble quand même vachement à ce qu'est devenu la manette Xbox 360.
Surtout le premier modèle avec les boutons.
Mais pareil, la manette Xbox One, c'est la manette Xbox 360, en mieux.
Ouais, toujours en mieux. Comme quoi, c'est possible.
Et puis alors la Elite.
Mais bref. Maintenant, il faut parler des choses qui fâchent un petit peu. Et vous savez de quoi qu'on va parler? On va commencer par quoi d'abord? On va commencer par la fiabilité peut-être de la console.
Qui n'a pas été touché ici?
Je lève pas ma main.
Moi, j'ai pas eu de Red Ring of Death. Non.
Quoi?
Non, j'en ai pas eu.
Moi, j'ai eu la chance d'en avoir qu'un seul. Mais
moi, en plus, j'ai acheté la console quand elle est sortie. Hein.
Pareil.
Mais après, je l'ai changé contre une Elite.
Ah bah voilà.
Une noire.
Moi, j'ai un.
Mais je veux dire, elle est jamais tombée en panne.
Une Slim, tu veux dire?
Non, l'élite. Ce qu'ils appelaient Elite à l'époque, c'est-à-dire la même, exactement la même, noire avec un gros disque dur et le HDMI.
Alors,
en fait, c'est vraiment le HDMI qui me. Et puis, alors évidemment, il fallait un plus gros disque dur au bout d'un moment.
Donc, combien de Xbox
Moi, j'ai gardé la même du début jusqu'à la fin, mais elle est tombée en panne deux fois. Ouais. Mais,
moi,
curieusement, pas le Red Ring.
Ah bon? Ah,
non,
Red Ring.
C'était un truc chelou, c'est que je jouais.
Sur Red Dead Redemption.
Je jouais et d'un seul coup. Je commençais à avoir un petit trait qui apparaissait sur mon écran et je continuais à jouer et deux fois c'est la même panne, j'avais plus que le son. Au bout d'un moment j'entendais que le jeu continuait de tourner.
Si j'ai eu un Red Ring sur la blanche.
Alors n'oublions pas, à ne pas confondre avec les Xbox de la rédaction, nous en avons eu à peu près quoi 7 ou 8 Red Ring of Death à la rédac sur des Xbox 360. Donc ça veut dire que globalement, collégialement, Gameblog a eu plus d'une dizaine aisément. T'as... Combien toi, Plumeau?
Je l'ai eu une seule fois.
Une seule fois.
Mais c'était déjà beaucoup trop. Mais on peut quand même louer
le service après-vente.
Alors là, extraordinaire. C'est du niveau d'Apple et d'Amazon.
Ouais, c'était vraiment bonjour, ça va pas. Ok, on vous envoie UPS. Voilà, hop, UPS. Trois jours plus tard, vous récupériez votre console comme si elle était neuve.
Trois jours, je sais pas.
Moi, ça m'a pris trois jours.
Elle
est en Hollande. Elle revenait
officiellement, ça devait durer deux semaines. Il te disait ça doit durer deux semaines, mais moi une fois ça a mis moins d'une semaine.
Au moment où je l'ai récupéré,
enfin, c'était
hyper rapide quoi. Une semaine quand même.
Très rapide.
Ça dépendait si c'était une réparation ou un remplacement.
Mais je regardais le numéro de série à chaque fois. Moi les deux fois ils m'ont renvoyé la mienne. C'était parce que des fois ils te changeaient, ils t'enfilaient une autre. Moi j'ai récupéré ma Xbox d'origine à chaque fois.
Ça leur a coûté cher d'ailleurs ces conneries. Hein. Un milliard et demi. Il y a eu un taux de retour je crois de 59% environ en 2009.
Surtout qu'il y a pas que ça. Il y avait le transfo aussi qui parfois a cramé.
Mais il y a une anecdote qui est rigolote, je sais plus qui c'était, un haut placé de Microsoft à l'époque, je crois que c'est peut-être même Peter Moore, qui était allé voir Steve Ballmer pour lui dire voilà la situation en termes de fiabilité où on en est, on peut mettre en place ce programme de rappel et de garantie étendue.
Garantie étendue à 3 ans.
Ouais, étendue à 3 ans, mais ça va nous coûter tant. Donc plus d'un milliard de dollars. Et Steve Ballmer, il a pas, voyant les faits, il a pas hésité deux secondes. Il a dit ouais, ok, on le fait. Parce que
on peut sinon, pas faire autrement.
C'est le moyen de tuer définitivement la marque Xbox. Ça aurait été radical.
Il y a une grande question quand même qui se pose à chaque fois quand on parle des chiffres de vente de la Xbox 360. C'est de savoir combien il y a eu de joueurs, d'acheteurs de Xbox 360 versus combien t'en as eu en fait dans ta vie. Parce que ça se trouve, dans ces 85 millions, qui est quand même un très beau chiffre, on l'a dit, il y a combien de personnes qui ont acheté plusieurs Xbox 360 à cause de problèmes?
Pas ça, on n'a pas de les problème. Chiffres. Moi, c'était pour changer de modèle.
Oui, parce que tu veux dire les gens qui n'étaient plus dans la période de garantie, ils étaient bien obligés de s'en racheter.
Ceux qui ne le savaient pas, qui n'étaient pas au courant, qui machin, etc. Tu dois avoir quand même quelques millions de machines qui sont liées à ça.
Ouais.
Combien, je ne sais pas.
Après, il y a aussi eu tout cet appel du pied fait avec tous les modèles collector, parce que des modèles collector de 360, il y en a eu plusieurs.
Celui de Star Wars, il est fantastique.
Ça pouvait inciter à acheter une autre console. Moi, je me souviens de personnes qui achetaient les packs Call of Duty.
Mais il y a des gens qui en ont racheté une pour avoir le HDMI et le disque dur.
La version Slim, moi, par exemple, c'était...
Et la Slim, elle était bien.
Elle l'est toujours.
Bah oui, j'en doute pas.
La Slim,
le problème, c'est qu'elle a un peu une gueule de PC Alienware.
Mais
ils
ont
encore
fine,
sorti une autre ensuite après la Slim,
ouais,
sur
qui
la
un peu
fin
moche,
qui, bah, parce qu'elle ressemble un peu à la One en fait. Mais celle-là elle a été très
discrètement. Et puis c'était les faceplate aussi. C'est-à-dire que moi, ma Xbox 360, elle a la faceplate du premier E3 2005, je crois.
Ah ouais,
ouais, genre à 500 exemplaires, bim, tac, juste les gens qui étaient dans la salle, j'ai mis mon petit faceplate.
Mais ça, c'est retombé. Mais à un moment, il y avait un marché d'échange et de vente de faceplate de Xbox 360. Et celle de l'E3, par exemple, celle de l'Emergence Day. Emergence Day, c'est le lancement du premier Gears.
Gears. Ouais, on les avait eu, d'ailleurs.
Celle de l'équipe de lancement de la Xbox, genre Major Nelson, tous les gens qui ont travaillé sur le lancement de la 360 avaient eu une faceplate exclusive, et tous ces modèles-là un peu rares se vendaient super cher. Alors forcément, quand la Slim est sortie et que ça a dégagé ce système de faceplate, bon, leur rareté en a pris un coup, enfin leur valeur en a pris un coup,
mais c'était une super idée.
C'est dommage d'avoir abandonné ça.
C'est tout con, mais c'est
du
super
coup,
idée.
Ils l'ont abandonné sur la One, et la PS4 le fait. c'est marrant quand même. T'as l'impression d'un espèce de tournant, mais total, une inversion.
Ils ont retourné la crêpe.
Sinon,
bah disons que la PS4 serait la Xbox One. Enfin, je veux dire, la PS4 aurait été la console qui venait après la Xbox 360.
Ça aurait été logique.
Non, à une chose près, c'est que la PS4 a choisi la voie for the players et machin, etc. Là où la Xbox a poursuivi quand même sur son truc 360, quoi, avec TV,
oui,
TV, TV.
Oui,
etc.
Mais regarde, Sony sur PS3, c'était le multimédia, justement, avec regarde du compact flash, du SD truc mûche, une console énorme, trop moche, super cher parce que y a le Blu-ray et tout, donc on avait à peu près rien à foutre. Et Microsoft, au début de la 360, c'est vraiment les gamers, quoi. C'est regardez, plein de jeux, et au fur et à mesure, et d'ailleurs on va y venir, direction de plus en plus multimédia. Mais vraiment, t'as l'impression que les deux, ils se sont totalement croisés, qu'ils ont chopé les philosophies de l'un et de l'autre, et puis sauf qu'elle marchait bien sur 360 et elle continue à super bien marcher sur PS4.
Mais il y a des choses quand même que Microsoft a été chercher ailleurs. Vous voyez ce petit truc noir là, si vous êtes premium, qui trône sur la console. Alors c'est un beau succès
commercial.
Pour Microsoft.
On parle de Kinect, hein,
c'est même un carton.
Voilà,
on peut le dire.
Exactement. C'est 25 millions d'unités vendues pour Kinect.
Ça, je me
dont les promesses.
Je me l'explique pas.
C'est magique.
Vraiment pas.
C'est
dont
magique.
Les promesses étaient
comme
magique. Incroyable.
Tu vois la promesse, elle marche, tu la comprends tout de suite.
Je trouve que la Wii c'était plus saisissant que le Kinect, hein. Et pourtant le Kinect, j'ai testé des jeux dessus,
techniquement,
ça marchait.
On te parle de marketing. La promesse, c'est toujours pareil. L'important, c'est l'impromesse. Là, je parle commercialement. La promesse, elle est plus forte que la Wii. T'as rien dans les mains, tu te mets dans ton salon, tu parles à ta console et tu bouges les mains.
La console, c'est
la réalité, c'est autre chose.
Mais
je trouvais pas que
les pubs étaient la poussière, comme disait.
Je trouvais pas que les pubs étaient particulièrement convaincantes.
Regarde ces
images-là.
Enfin, cette vidéo, qui est la première vidéo de Kinect avec le garçon là, qui est dans son salon,
ouais,
qui parle à sa console et tout.
Ouais, ça, il y a que la presse qui l'a vu. Enfin, la presse du jeu vidéo.
Tu rigoles ou quoi ? C'est tous les joueurs et machin, c'est ça qu'ils ont vu.
Tout le monde a eu un malaise en voyant Projet Natal.
Ouais, c'est la famille qui fait comme si t'avais un volant dans la main avec les parents qui sont en train de machin. Tout le monde a vu ça. Et les familles, elles ont acheté pour ça.
Regarde, on croirait une pub Nintendo.
Le succès commercial, c'est la promesse. L'échec derrière sur la One du Kinect, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est la deuxième lame. C'est parce que au final t'as été déçu que tu veux pas racheter la seconde fois et que tu t'es fait avoir. Mais au début, tu te fais avoir.
Et oui, parce qu'il y a eu quand même des belles expériences dessus.
Il y a des trucs rigolos.
Des trucs rigolos au début. Dance Central évidemment est peut-être le meilleur jeu de la machine avec
Kinectimals. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Kinectimals, t'aimais bien toi ?
Oui, c'était. Moi, je trouvais ça super mignon de caresser, certes virtuellement, mais les animaux et tout. Et quand t'es urbain, que t'as pas d'animaux, mais que t'aimerais avoir un petit chien, un petit chat et bidule, et ils étaient ultra cute, mais
avec
genre ultra mignon. Oui, tu pouvais scanner les peluches et tout. Bah moi, j'ai trouvé que pour la promesse, c'était très sympa.
Ouais, mais elles n'ont pas été tenues vraiment parce qu'on a des souvenirs assez désastreux d'autres jeux. Évidemment, je pense à Michael Jackson par exemple. Michael Jackson Experience qui reconnaissait pas vraiment tout ce qu'il fallait. Toi, t'avais Black Eyed Peas que t'avais aimé. Je crois qu'il marchait très bien Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas c'était cool. Non, mais Michael Jackson, c'était quand même la version la plus sympa parce que.
Reconnaissance, bof. Hein.
Mais non, mais je veux dire, mais tu sais, ça marchait comme Just Dance.
Ouais, ouais,
mais en fait, la reconnaissance, on s'en fout. Ah. C'est-à-dire que.
Dans
ça
Dance
sert à rien.
Ça marchait
très bien. Le jeu tourne tout seul, quoi.
Oui, c'est ça. Enfin, t'as déjà joué à Just Dance, je t'apprends rien.
T'as le
Just Dance, on va dire, de la Wiimote, t'as la Wiimote dans la main, mais à part ça, il capte pas. L'important, c'est d'être à plusieurs et de s'amuser devant la télé. Donc, Michael Jackson, moi, j'ai trouvé que c'était sympa, aussi bien sur Xbox que sur d'autres. Hein. Ce qui était plus catastrophique, c'est les jeux qui utilisaient vraiment la reconnaissance de tes mouvements et où, du coup, t'arrivais pas à jouer, alors que c'était pas le cas dans Michael Jackson.
Tu te souviens de ce petit avatar que tu pouvais voir devant toi en transparence sur certains jeux, ouais, avec le bras qui passait comme ça d'un seul coup, qui se mettait à trembler.
Tu parlais de Kudo Tsunoda qui voulait nous montrer le dessous de sa godasse. Qui voulait
non,
montrer le dessous de sa godasse.
Je ne parle pas forcément des démos, mais quand toi tu y jouais, c'était pas convaincant. Moi,
Dance Central, ça marchait immédiatement avec moi.
Dance Central, ça marchait bien.
Ah, c'était très très bien.
Ça fait poser. Là, on est en train de revoir les images en même temps, donc de la première fois où ils ont montré Kinect, etc. Cette famille formidable et tout, plein de trucs qui donc ne sont jamais arrivés, même sur One. Hein. Genre, je scanne ma board de skate, hein. Genre je la mets devant, puis tac tac, il y a l'intégré dans le jeu. Mais oui, bien sûr. Et compagnie.
Et la discussion avec Milo.
Avec Milo, voilà.
Moi, c'est ça qui m'intéressait.
Ça fait se poser des questions sur HoloLens un peu quand même.
Ouais.
Parce que ils sont pas à leur première.
HoloLens, enfin, je veux dire, Kinect c'était un accessoire pour la Xbox, pour créer de nouveaux types de jeux, etc. HoloLens, ça a l'air d'être quelque chose de plus général à Microsoft, qui n'est pas forcément axé sur les
démos qu'on a vues, c'est sympa. Maintenant, on sait quand même que le champ de vision est très
pourri,
limité.
C'est nul.
Et ce qu'on voit, alors filmé vu de l'extérieur, genre dans ton mur, il y a des personnages qui sortent, machin. Ok, pour le mec qui a le masque, bon, pourquoi pas. Mais les gens à l'extérieur n'ont pas ça.
Moi, je pense qu'en jeu vidéo, ça va être nul. Ça ne servira à rien. Ça va être un outil qui pourra éventuellement être un outil professionnel, comme d'ailleurs l'a expliqué très bien un article de je sais plus quel site, Ricard, là, qui expliquait qu'en fait c'est sur la réalité augmentée appliquée à des domaines comme la médecine et ce genre de choses que ça pourrait être utilisé, et notamment dans l'éducation. Mais à part ça, enfin, je veux dire, en jeu vidéo.
Tu t'es senti éduqué quand tu l'as essayé cet été à l'E3, en bonne compagnie en plus?
Ah ouais, quand je suis sorti de la pièce, ils m'ont donné un diplôme et tout. Bravo, félicitations.
Voilà ta médaille.
L'effet de HoloLens m'a bien plu, mais effectivement la limitation du champ de vision, ça c'est vachement handicapant et ça te coupe un peu du truc par moment. Mais sinon
je trouve que ça fout tout en l'air.
Pour
enfin,
le reste,
j'ai pas essayé, mais
ça fonctionne
de base.
Quand t'es dans l'axe, on va dire, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'effet. Après, c'est sûr que quand on te demande de regarder un truc de haut en bas, mais qu'il faut vraiment lever la tête pour sinon tu le vois couper, tu vois, ça te sort un peu du truc.
T'as pas l'impression qu'il est là, dans une fenêtre.
En jeu vidéo, je sais pas comment ils vont pouvoir utiliser ce truc là.
Bon, on a extrapolé les HoloLens, on va revenir un petit peu maintenant sur les petits cafouillages ou les petits trucs qui nous ont déçus. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est un studio britannique.
Mais attends, juste un truc, puisqu'on parlait de Kinect,
dis-moi.
Pour moi, Kinect, c'est le début de la fin de la 360, à mes yeux de joueur. C'est-à-dire, c'est le marqueur du dernier moment où finalement, où doucement mais sûrement, j'ai commencé à plus jouer à ma PS3 et à abandonner de plus en plus ma 360. Jusqu'à Kinect, globalement, hein, on n'est pas à 3 mois près, hein, c'était vraiment ma console de prédilection. Je trouvais que les jeux y sortaient massivement, que les jeux multi ils étaient meilleurs sur 360, blablabla. Bla, 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 bla. Et à partir de Kinect, tu sens que Microsoft a quand même switché. C'est vachement concentré sur les expériences Kinect, etc. A sorti quand même beaucoup moins de jeux. Que Sony en parallèle commençait à reprendre du poil de la bête, à accélérer avec du Naughty Dog fort, de l'indé qui commençait à se développer, machin. Et je trouve qu'en fait, je n'aurais pas trop quantifié, mais moi je dirais un an et demi, la dernière année et demie globalement de la génération passée, c'est le décollage, enfin c'est une très belle fin de carrière de la PS3. Qui monte en pression et qui fait une belle transition avec la PS4, et c'est une décrépitude douce mais claire de la Xbox 360 jusqu'à la One et ce qu'on connaît après, quoi.
Quelqu'un partage cet avis ici?
Oui, mais ils essayaient de commencer à montrer aux joueurs la direction en termes de contenu qu'ils allaient prendre, le divertissement, le Kinect, etc. Et ensuite, ils
Pour moi, ça date pas de là.
Ils ont continué comme ça. Tous les trucs
de divertissement et de télévision, c'est quasiment la deuxième année de la Xbox One. Hein.
Mais ça, au début, sur 360, ça se faisait naturellement et en tâche de fond, on va dire. Genre, ces nouvelles expériences et fonctionnalités, ils te les ajoutaient, mais ils te tapaient pas le crâne avec.
Quand tu regardes l'interface à partir des tuiles, c'est-à-dire, je crois que c'est la deuxième ou la troisième année de la Xbox 360, les tuiles réservées aux jeux, c'est même pas un tiers.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les présentations, ils exagéraient pas avec ça. Alors qu'à partir du moment où Kinect sort, la Conf 3, beaucoup de Kinect. Et
moi,
ensuite, quand
là
la
où j'appuie
One
ce que
arrive,
dit Julien, c'est du côté de la PS3 surtout qu'ils se sont rattrapés. Sur Xbox 360, justement, on avait cette discussion avant, j'ai regardé. Forza Horizon, Halo 4,
oui, mais Forza Horizon,
Gears of War Judgment.
Ouais, mais Forza Horizon, c'est, justement.
C'est arrivé à la fin.
Oui, mais justement. Gears of War Judgment, c'est pas un vrai Gears et il a quand même globalement plus déçu
Gears
les gens.
Gears of War 3,
enfin Halo 4, et Forza Horizon.
Forza Horizon, c'est pas un vrai Forza et il a pas eu le retentissement.
Il y a eu Forza 4 deux ans avant Forza 5
ouais,
et donc
voilà,
le lancement.
Deux ans. Je pense que évidemment ils ont pas arrêté de faire des jeux.
Je pense que c'est surtout Sony quoi qui s'est rattrapé.
Mais il y avait beaucoup moins de gros jeux et il y avait beaucoup même sur le multi comme on le parlait, les Mass Effect, les BioShock, etc. Avant t'avais plein de trucs multi qui sortaient d'abord. Alors que là c'était fini. Ils étaient un peu comme parmi tant d'autres. Sur les indés, ils étaient plus aussi hégémoniques. Il y avait plus les petites pépites sur la fin. Pour moi le dernier vrai c'est peut-être Limbo. Et c'est pas les dernières années. Enfin c'est pas la dernière année de la 360. Et je pense véritablement que Kinect a été le cancer de Microsoft en fait et que là ils sont en train d'en sortir mais qu'il a fallu le purger totalement parce que c'est un miroir aux alouettes, parce que c'est un carton commercial gigantesque et que Don Matrick derrière, qui peut l'arrêter? C'est-à-dire que qui peut lui dire mec, on en a vendu à mort, on s'est fait plein de thunes mais les gens ils sont pas contents en fait, ça marche pas, en fait il y a un problème. Et, alors que je suis sûr que si des réunions ont eu lieu comme ça, les mecs, ils sortaient son PowerPoint, ils faisaient « Regardez, on a vendu comme jamais des accessoires dans l'histoire du jeu vidéo, on a fait des milliards de thunes, les gens, ils veulent ça, ils aiment ça, allez, encore plus !» Et je pense qu'en fait, c'est ça qui les a perdus. Et je pense qu'ils se sont perdus, ils ont cru qu'ils étaient totalement grand public, familial, entertainment à 360 degrés, machin, alors qu'avant, ils étaient plus core avec des belles additions. Et c'est ce que Sony a fait. Core avec des belles additions et ce que Microsoft n'a pas su faire et qu'ils sont en train de refaire. Et d'ailleurs,
donc
on voit,
le message s'est brouillé au fur et à mesure des
années.
Ils
se sont vus trop grand public, trop on a réussi, on y est arrivé, ils se sont perdus.
Et il faut dire aussi que la Wii, elle a mis des étoiles dans les yeux aussi bien chez Sony que chez Microsoft.
Mais la Wii était beaucoup moins déceptive que Kinect.
Non, c'est sûr. Non, parce
les
que
gens
dire...
qui jouaient à la Wii étaient contents avec leur jeu de tennis, c'était comme à la télé, ils arrivaient
c'est,
à le faire.
C'est pas du tout. Alors ce que je dis, c'est juste que. Ils ont vu cette expérience grand public qui cartonne et qui faisait rêver les gens et qui arrivait à mettre devant une console des gens qui ne jouent jamais de tous âges. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on ait notre truc. Sony a essayé avec le PlayStation Move qui finalement, quand on y repense, le PlayStation Move sur PS3, c'est pas une grande réussite non plus.
Bah, techniquement, c'est la meilleure expérience de motion control.
Oui, ça marche
mieux.
Ça marche
mieux. C'est
mieux
que la Wii.
Mais ça
n'a
pas été, énormément exploité.
Bah non, parce qu'ils l'ont pas bien poussé.
Et la Xbox 360, ils ont voulu essayer totalement autre chose avec Kinect. Mais le Kinect, aussi bien le Kinect que le PlayStation Move, c'est une réponse... C'est une réponse à la Wii,
tout
simplement.
Ouais, c'est le motion gaming.
Mais Kinect a eu des applications autres que le jeu vidéo. Hein. Il a servi aussi dans des domaines de la visite de musées, par exemple, ou dans le domaine de la recherche.
Ah non, mais si même encore, je crois, il y a 6 mois, je crois que je passais devant un Sephora, où, tu sais, sur des pubs vidéo sur des écrans, où ils te traquent, où ils te filment, etc.
Ouais.
Et quand tu regardes, c'est Kinect.
Ah oui, la technologie est toujours
beaucoup,
employée.
Bien sûr, ouais.
Ah, pour ça marche bien, mais c'est à partir du moment où tu veux faire du jeu vidéo un peu plus sophistiqué, là, c'est pas possible. Et moi, je m'en suis douté tout de suite. Je me rappelle de la démo de Star Wars Kinect. Ah ouais, ils te présentent le Kinect et ils finissent avec ça, Dark Vador qui arrive au loin. Mais si tu réfléchis 2 secondes, tu te rends bien compte que c'est pas possible. Parce que tu vas pas marcher chez toi.
Je crois que t'allais dire parce que Dark Vador n'existe pas.
Ou marcher sur place comme ça, tu te doutes bien que forcément, comme c'est du Kinect et que c'est de la reconnaissance de mouvement, et ça va se limiter à quelque chose sur rail et rarement plus que ça, quoi. Voilà.
Bah écoute, parfait. Si on devait faire un petit bilan maintenant de la 360 et de l'influence qu'elle a eue sur cette génération de consoles, c'est quand même on l'a fait.
Le
hein,
online,
mais... ouais.
C'est vraiment.
Et son influence sur la Xbox One aussi, qui visiblement n'a pas voulu trop s'en inspirer.
Bah, si on fait les choses positives, moi je dirais le online,
ouais.
Les succès, qui sont un succès. L'émergence, la mise en avant des indés.
L'explosion du jeu occidental.
Les interfaces renouvelées, la volonté de faire vivre sa console bien après la commercialisation initiale et apporter ce vent de fraîcheur. Ça, c'est vraiment la 360.
Très bien. Donc, vous la considérez comme culte ou pas vous-même?
Oui. Moi, c'est une de mes consoles préférées, vraiment, de loin.
Bon, eh bien écoutez, messieurs,
en tout cas, elle nous fait penser un petit peu à la Dreamcast, comme on disait tout à l'heure. Et...
Je ne sais pas s'il nous reste des choses à développer au cours de ce podcast concernant la Xbox 360.
Bah non, bon anniversaire, ma petite chérie.
Voilà. Voilà, bon anniversaire. Merci de nous avoir offert.
Moi, je crois
autant
que on n'est plus très loin de retrouver un Microsoft 360er.
Ah.
Et il faudra une nouvelle console ou un relooking ou un truc pour vraiment passer la page du
je
début de Xbox
compris.
One.
Un relooking extrême alors. Hein.
Mais allez, ils ont zappé Kinect, ils ont commencé à zapper cette philosophie-là, ils ont commencé à se recentrer, ils ont quand même des beaux jeux en 2015, des prochains arrivés en 2016. Maintenant, il leur faut physiquement, visuellement pour les gens, une nouvelle machine qui permet de tourner la page de Xbox One. Et quand tu vois la progression qu'ils ont su avoir, l'intelligence qu'ils ont su avoir entre la première Xbox et la 360, on le disait, hein, Microsoft, ils ont plusieurs choses fortes. Ils apprennent vite, c'est une réalité, et ils ont plein de sous. Et quand t'as plein de sous, tu peux faire n'importe quoi, ou si t'es pas trop con, tu peux aussi les mettre bien et accélérer, gagner du temps, quoi. Ça veut dire que t'as fait une connerie, bon, quelqu'un qui mettrait, je sais pas, une génération entière pour s'en remettre, avec beaucoup de sous et un peu d'intelligence, tu peux peut-être mettre une demi-génération.
Il n'y a qu'à voir la fin d'année qu'ils font déjà, là, en 2015.
Mais qui commercialement...
Non, mais là, ils sont enfin, pour la toute première fois, sortis du bad buzz initial.
Attendez, on dit ça, mais
ça marche pas encore commercialement.
Vous savez à combien elle est en ce moment, la Xbox One?
À 300
balles. Parce qu'elle est beaucoup plus que la Xbox 360 à la même période.
Le marché a vraiment augmenté, ouais.
Ouais, donc ça va, en fait. Finalement, il se porte pas si mal que ça. Si on la compare à la PS4, forcément.
Tu vis sur un marché, et donc les parts de marché, ça compte.
Pour l'instant, ils prennent quand même... Enfin, ça va être très intéressant. L'année 2016 va être incroyablement stimulante et excitante, parce que Nintendo... va pour l'une des premières fois arriver avec une machine à mi-chemin, enfin à mi-parcours d'une génération, ça peut tout chambouler. Hein. Si c'est bien pensé, si c'est intéressant, etc., même par rapport aux éditeurs tiers, ils peuvent complètement se repositionner, il va falloir voir la réaction des autres. Normalement, à cette E3-là, normalement, hein, on en est au cycle à peu près des formats slim, potentiellement. Donc ça peut remettre des dynamiques. On en arrive au moment où il y a... de la réalité virtuelle d'un côté, du HoloLens et peut-être autre chose aussi du côté de Microsoft, enfin des trucs, tu sais, qui recréent un engouement, quoi, parce que les machines maintenant, Noël prochain, elles auront 3 ans
et 4 Noël
et je pense que ce cycle de génération, cette génération de consoles sera plus courte que la précédente.
D'accord, très bien. Mais on va finir ce podcast sur ces mots plein de pacteurisme, j'ai envie de dire
prophétique.
Ah oui,
prophétique, exactement. Ça ira
bien, hein.
Bah merci en tout cas pour ce petit podcast anniversaire sur la Xbox 360. Merci Romain.
Merci à la 360.
Merci Julien, merci Julo, merci à vous.
Merci à toi.
Une fois de plus de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le retour à la normale des podcasts, puisque là, il n'y a pas d'Xbox 361, donc on ne peut pas faire comme ça. Donc voilà, d'ici... Tu voulais dire rajouter un truc?
Non, mais je veux dire, vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas. Alors, on vous l'a déjà demandé plusieurs fois, hein, y a eu des dossiers, etc. Mais,
des souvenirs,
mais,
des jeux.
Voilà, donnez-nous vos souvenirs de cette machine. C'est pas forcément, on vous a demandé beaucoup, c'est quoi votre jeu préféré et tout ça, mais qu'est-ce que c'était pour vous que cette console? Et est-ce que vous la jugez juste très bonne, culte ou pas si terrible que ça, machin? De partager vraiment avec nous votre sensation sur la 360 et sur l'évolution de Microsoft quand même, qui n'en est entre guillemets qu'à sa troisième console. Il y en a clairement une qui a très bien marché. Il y en a
C'est celle qui a fait
entrer
la
plus compliqué.
Grand, voilà.
Mais
tout bêtement.
Mais, ouais,
tout parce qu'avant c'était un outsider et avec la 360 c'est devenu
un big boss.
Un big boss, exactement. Merci à vous encore une fois de nous avoir.
Mais encore faut-il le rester. Parce que quand t'es arrivé haut, il faut le rester.
Tu arriveras à faire ta
fin. Non, t'inquiète, je vais l'interrompre, il faut que je trouve un autre truc.
Attends, j'essaie de voir comment je vais la formuler cette fois. Alors, mon cher Julien.
Et n'oubliez pas que cette semaine est une semaine très importante pour le jeu vidéo, puisqu'il y a les Game Awards.
Exactement.
Et le PlayStation Experience que vous allez pouvoir vivre avec nous, avec la rédaction de Gameblog. Juste petit point, parce qu'il y a différentes horaires, etc.
Oh là, oui.
Donc, le Game Awards, les Game Awards avec 10 prix, 10 World Premiere. Ce sera à suivre dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 3h du matin. Il y aura les news, le flux, etc. Et puis, le PlayStation Experience, Je sais pas si on dit le, la, les, PlayStation.
La PlayStation, c'est, la, c'est une expérience.
C'est un salon.
C'est un, salon.
Enfin, bon, c'est un événement.
Moi, je dirais le.
Moi, je dirais PlayStation Experience est à suivre. Sur Gameblog. Bah, à partir de samedi, vous savez, ça va se passer à San Francisco. À partir de samedi, si c'est comme l'année dernière, il devrait avoir une conférence. À l'heure où nous enregistrons, elle n'est toujours pas officialisée. Et si c'est comme l'année dernière, elle sera samedi à 19h. En tout cas, si c'est officialisé, vous pourrez la vivre en direct
sur
Gameblog.
Et si c'est officiel, vous serez peut-être même dans le coin.
Ah ben non, mais ça on peut le dire. Romain et moi, on va partir aux États-Unis
dans les six, donc.
Pour vous faire vivre ça, parce qu'il y a une tonne, en tout cas ça c'est sûr, de jeux qui seront jouables.
108.
Et donc on va les essayer, pas tous, hein, mais n'hésitez pas d'ailleurs dans le forum à nous dire quels sont les jeux que vous voulez qu'on aille voir pour vous donner nos impressions sur ces jeux.
Bordel, 108. 108 jeux jouables.
Je suis Coden.
Oui, putain, tu crois, tu crois que c'est le retour de
Coden? C'est un signe. C'est un signe.
Mais dans le lot, il y en a certains qui sont déjà sortis. Hein. Il y a des jeux de fin d'année, des jeux qu'on a déjà pu essayer auparavant. Mais il va y avoir aussi des nouvelles annonces. Parce que l'année dernière, au PlayStation Experience, il y avait eu des annonces de jeux inédits.
Allez, donc, on mise sur quoi? Moi, je pense à un God of War.
Est-ce qu'on va 7, je sais pas pourquoi.
Ouais, ça a l'air d'avoir fuité. Et Sony Bend. Et Sony Bend, c'est Siphon Filter, par exemple, entre autres.
Ah,
ouais,
peut-être montrer un peu plus quand même Gran Turismo 7 qu'on n'a pas vu finalement. Ouais. Enfin, Gran Turismo,
je sais pas si c'est très
sport.
Américain.
Gran Turismo, c'est universel.
Bon, Dreams, ouais. Ça va montrer à nouveau aussi.
Moi, je sais pas, je pense pas.
Oh, Dreams,
moi, je pense pas.
C'est très euro.
Ouais. Ouais. Ils ont bien localisé leur salon au Tokyo Game Show. Vraiment des trucs très jap.
Là, tu vas voir
The
Guardian aussi.
Moi, je pense pas, non.
Oh là. Non, là tu vas avoir de la violence.
Non, God of War, Kratos.
Bon, ça c'est pour la PlayStation Experience, mais pour les Game Awards.
Alors pour les Game Awards, moi je mise sur Zelda Wii U.
Zelda Wii U,
encore,
très bien.
Comme l'année dernière.
Comme l'année dernière. Pour une petite update.
Si j'avais. Non, Miyamoto, je le ferais pas. Je dirais pas ça. Parce que Red Dead Redemption 2, ça serait vraiment trop.
C'est ce que j'ai dit dans mon. J'ai quelque chose à vous dire. C'est la grosse cote. Mais Rockstar n'a généralement besoin de personne pour trouver son temps de communication. Ouais. Donc je suis pas persuadé. En revanche. Une annonce du côté de Hideo Kojima qui devrait être présent. On sait que parmi les partenaires de l'événement, il y a plein d'éditeurs, mais il n'y a pas Konami. Par contre, il y a nominativement, et c'est le seul, Hideo Kojima, très pote de Geoff Keighley. À chaque VGA, VGX ou Game Awards, il y a toujours eu un truc avec Kojima. Officiellement, normalement, à partir du 1er décembre, il n'est plus un employé de Konami. Les Game Awards auront lieu 3 ou 4 jours après.
Enfin non, pas officiellement, officieusement, oui. Parce que d'après Konami, il est en vacances.
C'est ça.
Mais il a les vacances les plus longues de l'histoire.
Mais là, on enregistre, on est
le 30 novembre. Aujourd'hui.
On est 30 novembre, donc on saura dans quelques heures si vraiment ça tombe. Mais ce serait peut-être l'occasion, probablement pas de montrer un jeu, parce que voilà, mais de dire, je vais faire Kojima Production 2, le retour, revival en 1080p.
Il y a un rideau derrière lui, et là, il y a deux lettres IA.
Ouais, et puis il y a surtout Norman Reedus et Guillermo del Toro qui apparaissent, qui font
là tu casses internet là si tu fais ça.
Ah là là.
Bah, je pense qu'il veut casser internet de toute façon.
Peter Moore qui vient et qui dit on a racheté les droits de Silent Hills.
Et c'est fait avec un nouveau studio.
Dirigé par Jade Raymond.
Voilà. Et c'est un pachinko.
C'est formidable. Bah, putain, mais oui.
Eh oui.
Bah dites-nous dans le forum.
Non,
à quoi
mais
vous
par
pensez.
Contre, c'est pas impossible que des choses montrées ou annoncées au Game Awards soient ensuite jouables ou accessibles au PlayStation Experience.
Ça, j'y crois pas trop. Moi.
Ah bon?
Bah non, parce que.
Si c'est un truc de Sony.
Bah oui, mais justement, ils vont pas se griller 3 jours avant. Sony
ouais,
ils
vont peut-être donner
toutes
un petit
cartouches.
Truc.
L'année dernière, ils l'ont pas fait.
Ils ont rien fait du tout.
Bon, continuons cette discussion en dehors du podcast, parce qu'il va falloir rendre l'antenne.
Mais non, on est bien là. Attends.
Je sais, mais ça, on en discutera.
Attends, il y a pas dehors. Jeu en plus, mais leur jeu sera là jeudi, vous inquiétez pas, je sais vous avez
je pense
peur.
Que tout ça on va en parler dans le prochain podcast
la
de toute manière qui à mon avis va revenir beaucoup sur
non,
sera
pas
les
là.
Game Awards, mais c'est vrai c'est
enfin,
dommage,
si
vous
allez l'avion,
quand même. Mais voilà, vous en parlerez dans l'avion, ça sera
sinon on enregistre le dimanche, on veut bien
le dimanche, non,
ah bah oui.
Non.
Quel jour vous rentrez?
Bah le mardi.
D'accord.
Ah oui, donc ça fait quand même loin. Bon bref, merci encore de nous avoir suivis. Tu nous interromps pas cette fois.
Ou sinon, dites-le nous.
Dites-nous au revoir.
Parce que le podcast, si vous voulez qu'on soit là avec Romain pour vous parler des PlayStation Experience de l'intérieur.
On attend le mardi.
Mais du coup, pour les premiums, bon, pas terrible. Mais encore le mardi, je sais pas à quelle heure
on va faire. On mettra plein de vidéos de ouf à l'intérieur.
Non, mais on va faire
des vidéos
de l'hôtel. Vidéo, autre,
prenez-vous à l'hôtel, etc. Comme ça, les premiums auront vraiment.
On va se prendre à l'hôtel.
En peignoir.
Romain, prépare-toi, on va se prendre à l'hôtel.
Voilà. Exactement. Bon, merci encore. À vous.
Et n'oubliez pas, Noël arrive bientôt.
Pas.
Et Noël, c'est un événement pas comme les autres.
Poussy coupe son micro.
Non, il faut lui laisser le privilège de la conclusion.
Non,
comme
tout.
Ça, c'est réglé.
Non, mais,
et toi, tu peux le couper.
Mais par contre, en revanche, il faut qu'on
il va couper ton micro.
Qu'on s'occupe bientôt des Gameblog Awards.
Ouais, c'est vrai.
Donc bientôt vous allez devoir voter, hein, les amis.
Vous allez devoir voter pour Her Story, je vous l'annonce. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bah, jouez bien.
Puis ne prenez pas froid, parce que vraiment, les températures en France ont sacrément chuté quand même.
Faut le dire. Au revoir, au revoir.
Au revoir, faut pas rester là.
Au revoir, faut partir, messieurs.